I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bienvenue à tous et bonjour à vous. Au programme de Midi News aujourd'hui, après Sciences Po et certaines universités, les manifestations et rassemblements pro-palestiniennes ou plutôt anti-israéliennes vont-elles s'étendre au lycée? L'Union syndicale lycéenne a appelé au blocage, en particulier en Île-de-France, et nous y sommes. C'est la deuxième fusillade en 48 heures. En tout, en quelques jours, il y a eu 3 morts par balle à Sevran. Sevran, une narco-région et des moyens disproportionnés de trafiquants. Nous poserons la question à nos invités. Sevran qualifié aussi de nouveau Marseille de l'Île-de-France. Mais pourquoi nouveau alors que certains le dénoncent depuis des années? Et puis c'est une séquence qui a été abondamment commentée, une séquence à Ajaccio en Corse où l'on voit Éric Zemmour pris à partie par des militants traités de fascistes. Il essuie un jet d'œuf de la part d'une militante et il va réagir. Alors, cette réaction, légitime défense ou bien violence? On écoutera Sarah Knafo, numéro 3 sur la liste Reconquête à ce sujet. Et puis autre séquence, là nous sommes dans l'émotion. Colombe, au RSA, en grande difficulté, bénévole chez les Restos du Cœur, poussée vers la sortie car elle a parlé de son vote pour le RN. Vous écouterez l'analyse du politologue Jérôme Fourquet. Mais tout d'abord, place au journal. Bonjour à vous, cher Mickaël.
Bonjour Sonia, bonjour à tous. Deux hommes tués par balle hier en pleine rue. Ça s'est passé à Sevran, en Seine-Saint-Denis, moins de 48 heures après la fusillade qui a fait un mort et plusieurs blessés dans un autre quartier de la ville. Les victimes étaient connues des services de police, notamment pour trafic de stupéfiants. Les précisions à suivre dans un instant dans Midi News. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement lance ses assises contre l'antisémitisme. Les représentants des cultes et les responsables de plusieurs associations sont réunis aujourd'hui à Paris pour plancher sur le sujet. Ils sont reçus par Aurore Berger, la ministre de la lutte contre les discriminations, qui appelle, je cite, un sursaut collectif. Écoutez.
L'objectif, il est très clair. On a malheureusement une recrudescence des actes antisémites dans notre pays. Donc on a besoin d'un sursaut collectif. Et pour avoir ce sursaut collectif, il fallait qu'on se retrouve ensemble. Se retrouver ensemble, c'est l'ensemble des cultes, c'est l'ensemble des associations aussi de lutte contre la haine. Donc il y a un premier temps qui est un temps avec l'ensemble des cultes et l'ensemble des associations de lutte contre la haine. Et il y aura un deuxième temps fin juin avec l'ensemble des partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et là, je ne doute pas, et j'espère en tout cas qu'ils seront tous présents.
Et puis Xi Jinping, reçu en ce moment même à l'Elysée par Emmanuel Macron, le président chinois est en visite d'État de 2 jours en France pour fêter notamment les 60 ans de relations diplomatiques sino-françaises. Pour Emmanuel Macron, le dialogue euro-chinois est plus que jamais nécessaire. Voilà Sonia, ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à midi sur CNews. Et moi je vous dis à tout à l'heure.
Avec grand plaisir, à tout à l'heure cher Mickaël. Pour l'heure, on accueille avec toujours un grand plaisir Eugénie Bastier. Merci d'être là et bonjour à vous.
Bonjour.
Je salue évidemment Vincent Roy.
Bonjour.
Sabrina Medjeber est avec nous et bienvenue
bonjour
à vous.
Bonjour Sonia.
Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police.
Nous bonjour Sonia.
Bonjour à vous. Et évidemment Arthur de Vatrigan, comme tous les lundis. Bonjour.
Bonjour Sonia.
Arthur de Vatrigan. Alors, beaucoup de sujets à vous soumettre. Et tout d'abord, deuxième fusillade en 48 heures. Oui. Les chiffres sont tellement, en tous les cas, le bilan est tellement incroyable. En 48 heures, 3 morts, quelques jours. 3 morts par balle à Sevran. Hier, la fusillade a impliqué 2 personnes visées par des tirs mortels. Et depuis 48 heures, on lit, et puis ce qui est écrit dans les journaux, Denis Jacob, c'est Sevran, le nouveau Marseille, l'Île-de-France. Nouveau pour vous qui, évidemment, avez l'expérience et la connaissance du terrain. Qu'en pensez-vous?
Alors déjà, c'est pas nouveau, et puis faire un espèce de comparatif morbide entre les villes sur les règlements de compte, franchement, c'est un petit peu moyen. Rappelez quand même qu'à Sevran, entre 2009 et 2011, on a eu à peu près 10 de morts dans le cadre de règlements de compte. Donc rien de nouveau, malheureusement, par rapport à cette ville où, il faut le rappeler, c'est une des plaques tournantes du trafic de cannabis. Ça fait partie de cela également. Donc on fait le lien, nous, policiers, avec toutes les opérations que nous mettons en place depuis maintenant plusieurs mois, que sont les opérations PlaceNet, donc qui confortent ce que je disais déjà, que ça donne du sens à l'action de police et au rôle que l'on a pour lutter contre les trafics de drogue, puisque, alors c'est pas encore clairement établi, mais soit c'est une guerre de territoire entre bandes rivales, soit c'est parce que nous avons réussi une partie de notre travail, c'est-à-dire éradiquer plusieurs points de deal qui aujourd'hui font l'objet de convoitises entre différents réseaux, et c'est à celui qui arrivera à le récupérer pour le réinvestir et donc qui se livre à des règlements de compte.
De toute façon, on salue votre travail, mais il est vrai qu'il y a deux façons de voir les choses ou d'appréhender la situation. Comme le disent les autorités, c'est-à-dire voilà, les opérations PlaceNet payent, ou alors, comme le disent d'autres, des experts de ce sujet, eh bien, nous avons des narco-régions totalement enquistées. Et derrière les trafics de drogue, il ne faut pas oublier aussi l'ultra-violence, les règlements de compte, l'omerta, la corruption. Tout est résumé dans ce sujet par Mathieu Devez.
Ce dimanche vers 18h, deux hommes ont été tués par balle selon plusieurs sources policières dans le quartier Monceleux-Pont-Blanc, près d'un parc à jeux pour enfants à un peu plus d'un kilomètre du lieu de la fusillade mortelle de vendredi soir. Les victimes, âgées de 31 et 35 ans, étaient connues pour violence et trafic de stupéfiants. Selon une source policière, les deux hommes impliqués dans cette fusillade ont pris la fuite, à pied. D'après le préfet de police Laurent Nunez, ces faits sont liés au trafic de drogue.
Mes services vont poursuivre, sous l'autorité du procureur de la République de Bobigny, on va poursuivre les investigations judiciaires pour lutter contre le trafic de stupéfiants. On a conscience que quand on fait ça, on déstabilise le trafic, on crée des convoitises et parfois il y a des affrontements entre bandes de criminalité organisée pour récupérer des territoires, d'où un certain nombre de règlements de compte qui se traduisent par des homicides.
Dans la nuit de vendredi à samedi, un homme de 28 ans avait déjà été tué et 7 autres blessés lors d'une fusillade dans la cité des Beaudottes. Après Marseille, Sevran avait fait l'objet d'une opération anti-drogue PlaceNet XXL en mars dernier afin de porter un coup d'arrêt au trafic.
On salue évidemment ce que font les policiers, mais ce que dit le préfet de police, c'est qu'en fait, les opérations PlaceNet vont provoquer des fusillades encore plus importantes.
C'est le problème que j'exposais déjà sur votre plateau il y a quelques temps, c'est-à-dire que les opérations PlaceNet, c'est bien, mais il faut que derrière, il y ait une action de police pérenne dans ces endroits-là, parce que si on fait une opération PlaceNet qui va durer une semaine, 15 jours, et puis ensuite qu'on part... Eh bien, les points de deal sont relaissés à nouveau à la main des trafiquants et ils vont réinvestir ces points de deal. Donc, les opérations point de net, place net, c'est une opération coup de poing. Puis derrière, il faut une pérennité de la présence.
Juste préciser, pardon,
policière.
D'entrer dans les détails, c'est-à-dire ce qui s'est passé. Je le dis parce que ça s'est passé en pleine rue, dans la journée, il faisait encore jour, et les deux hommes ont été hier abattus en pleine tête.
Oui, mais cette nuit, Sonia, un jeune de 17 ans, a été tué à Marseille. Oui. Voilà, par plusieurs coups de feu. Oui.
En pleine journée. En pleine journée.
Oui, mais les trafics ne s'arrêtent pas à la levée du soleil, malheureusement. Alors, c'est vrai que le plus fort.
Ça veut dire
que
nous sommes à côté d'un parc pour enfants. Oui. Voilà le contexte dans lequel tout se passe. Oui, ils s'en fichent.
Mais malheureusement, Sonia, ce n'est pas la première fois que des règlements de compte de ce type se déroulent en pleine journée, comme à Marseille, notamment. Alors, Marseille, c'est encore pire que Sevran, parce que c'est régulier. Mais ça témoigne que.
Vous avez raison. Mais le policier que vous êtes, mais je veux dire, nous, observateurs, nous sommes encore, même si nous l'évoquons tous les jours, choqués quand même, ou pas du tout.
Ah mais on l'est, mais nous aussi, on l'est, bien évidemment. Oui. Mais bon, malheureusement, c'est que la présence policière, si elle n'est pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année, sur ce type d'endroit livré au réseau de trafiquants, bien on peut malheureusement... Là, c'est des règlements de compte. Ça aurait pu être un gamin qui reçoit une balle perdue.
C'est pour ça que j'insiste sur le moment, le lieu.
Ça démontre bien ce que je dis depuis maintenant des années. L'action de police, c'est une action répressive, mais c'est aussi une action préventive et dissuasive sur le long cours, et qu'il faut réinvestir ces quartiers de manière permanente.
Oui, donc, en clair, c'est PlaceNet, résultat flou. En clair. Parce que vous voyez bien que... On continue de saluer évidemment le travail que vous faites sur le terrain, mais à partir du moment où il n'est pas pérenne, les choses se reproduisent à l'envi. Et ça va continuer de se reproduire, puisque PlaceNet, pardonnez-moi, mais il y avait quand même là-dedans une grosse part de com. Quant à la Seine-Saint-Denis et à Sevran en particulier, on nous avait annoncé que c'était la Californie sans le soleil, c'est quand même... là, on baigne quand même dans la poudreuse. Hein.
Oui, c'est pas la Californie, c'est le Far West, là.
Oui.
Eugénie Bastier.
Oui, on a l'impression de voir s'installer en France des formes de mafia comme il y en a eu, comme il y en avait dans le sud de l'Italie. Et d'ailleurs, une partie de la législation française maintenant copie un peu les outils de répression italiens, notamment le fameux statut du repenti qui vient d'être qui vient d'être votée. Alors évidemment, la grande différence, c'est que ça se situe dans des quartiers à forte immigration, donc il y a une dimension culturelle, ethnoculturelle. Enfin, en Italie, ce sont des populations endogènes. Et il y a une différence aussi, et alors peut-être que ça viendra en France, c'est qu'en Italie, il y a une partie de la population, notamment qui vivait dans ces territoires où s'était enquistée la mafia, qui s'est révoltée contre la mafia. Il y a eu un mouvement citoyen très très fort suite justement à des dégâts collatéraux, à des morts suite à des règlements de compte. La population italienne s'est levée et il y a eu tout un mouvement citoyen contre la mafia. Et moi, j'attendrai et j'aimerais que dans ces territoires-là aussi, il y ait des mouvements citoyens qui s'organisent. Bien sûr, il y a des frémissements. Il y a des associations, par exemple, qui ont été formées par des parents de victimes qui ont subi des balles perdues. Mais il faudrait que ces mouvements prennent de l'ampleur parce que je pense qu'il n'y aura pas de résolution du problème tant que les citoyens de ces territoires-là ne décident pas aussi de se lever collectivement. Et je ne dis pas que c'est facile, évidemment, parce qu'il y a une loi.
Toutes les conséquences, omerta, etc.
Mais qui s'exerce sur le territoire, mais je pense qu'il n'y aura pas de solution si, à un moment, il n'y a pas de mouvement citoyen qui se lève et qui exige aussi. Qui viennent de ces territoires et qui exigent de chasser ces mafias du territoire.
Mais certains se lèvent, Sabrina Medjeber, mais pour réaliser eux-mêmes, et ça ne veut pas dire que vous ne le faites pas, mais c'est probablement l'État qu'il faut interroger pour assurer la sécurité, à la fois de leur maison, mais de leur pâté de maison, si je puis dire, et même de leur quartier. C'est ça, le risque en réalité, c'est ça. C'est pourquoi nous insistons sur ce sujet-là. Ce ne sont pas des faits divers, ce sont des faits de société, au sens où ils peuvent provoquer un changement fondamental.
Complètement, sur le plan politique comme sur le plan juridique. En réalité, le problème, c'est que l'État est centralisé et la mafia, elle est complètement décentralisée. C'est-à-dire que le crime qui est organisé dans ces quartiers, il ne vient pas d'une personne, il n'est pas à l'initiative d'une personne. C'est un caïda que l'on retrouve de façon régionale, qui s'est dispersée au fur et à mesure du temps, depuis que la drogue s'est installée dans les quartiers à partir des années 90. Au départ, c'était la petite banlieue, puis après, c'était la petite couronne, après la grande couronne, après l'agglomération, après la province, et aujourd'hui, toutes les ruralités, enfin l'ensemble du territoire, quoi. Donc il y a déjà un problème par rapport à l'application du droit et la mise en place de dispositifs de police qui auraient dû être présents depuis 40 ans. Xavier Refaire, que vous allez recevoir tout à l'heure, en parle très bien. C'est qu'en fait, ces quartiers-là ont grandi quasiment sans commissariat. Ils n'ont pas été en lutte et en but face à l'autorité de l'État et donc le monopole de la violence légitime. Ce qui aboutit aujourd'hui à un déficit et donc un recul de l'État dans ces quartiers depuis 40 ans. Et c'est là où, ça devient très compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, nous avons des proto-États, et vraiment, je pèse mes mots, qui organisent leur propre légitime défense. Je parlais la semaine dernière de Nîmes. Ils dépensent 9000 euros par mois dans le quartier de Pisevin, souvenez-vous, pour protéger les bâtiments frontalement aux gangs qui leur sont opposés. Donc la réalité, elle est là. Et quand Nicolas Sarkozy, pour une raison de rationalisation des coûts, décide de supprimer la police de proximité, vous croyez qu'aujourd'hui c'est facile pour les policiers d'arriver sur des terrains complètement conquis par le narcotrafic?
Il y a aussi des zones rurales où il n'y avait pas de commissariat.
Oui.
Et donc, il n'y avait pas de présence de ce commissariat. On ne s'est pas retrouvé forcément avec aussi de tels règlements de compte.
Alors,
maintenant,
les territoires ruraux, ça se ramifie sur l'ensemble du territoire. Si vous prenez, je termine juste là, par exemple, la carte des émeutes qui nous a été présentée, elle est exactement calquée sur la carte des points de deal. Mais le problème, c'est que les zones de chalandise, elles circulent partout. Les dealers, aujourd'hui, ne sont plus simplement ceux des quartiers. Il y a ce qu'on appelle les dealers Kleenex. Il y a l'ubérisation du transport de la drogue. Il y a des ports qui ne sont pas suffisamment contrôlés, dont même certains sont corrompus. C'est Michel Gandillon qui l'explique très bien, notamment à Dunkerque. Parce que comme dit Eugénie, elle a raison sur le sursaut collectif, c'est une très bonne initiative. Mais quand on connaît la cruauté des représailles que sont « on va laver le terrain », la jambisation, le barbecue, etc., c'est très compliqué.
Arthur de Vatrigan.
Sevran, vous disiez, est-ce qu'on peut être choqué qu'il y ait des tirs de balles en plein après-midi en 2007 à Sevran, école François Villon, mais une balle qui a traversé une salle de classe. 2011, Stéphane Gatignon demande les casques bleus pour sa ville parce qu'il y a déjà des bandes rivales. Et alors, ça ne s'appelait pas Place Nette à l'époque, mais il y a les CRS qui arrivent, ils repartent. Vous avez Stéphane Gatignon toujours qui a démissionné en 2018 pour cette raison-là. Donc, je veux dire, Sevran, c'est pas nouveau, c'est très ancien. Et je me rappelle même d'un procès en 2008 où, à cause d'une bande rivale, il y a quelqu'un qui a fini dans une cave et en découpant en petits morceaux. 10 personnes en correctionnel, le procès qui était très médiatique à l'époque, et ça, ça date de 2008. Donc, vous imaginez, ça fait très très longtemps. Et le drame de Sevran, c'est que vous avez un centre de trafic de drogue, mais un centre d'islamistes aussi.
Parce que
Sevran avait vu le record de jeunes de sa ville partir en 2014. En Irak et en Syrie. Or, vous avez un lien entre les deux évident, parce que rappelez-vous, Mohamed Merah, il n'est pas arrivé par le djihadisme, par la grande porte. Hein. Il était lié à l'Apex et à l'AFIS, il faisait des gofas du Maroc via la France. Et quand il est sorti de prison, c'est l'Apex et l'AFIS qui l'a récupéré, qui l'a emmené en Syrie. Et en fait, c'est ce qu'on appelle des born again, c'est-à-dire que vous récupérez des jeunes issus de l'immigration qui sont trafiquants, et vous leur offrez une porte de sortie morale. Et donc, quand vous voyez qu'à Sevran, vous avez la plaque tournante du cannabis, c'est la plaque tournante de l'islamisme, là, je veux dire, si vous habitez dans la ville, vous avez la double peine, quoi. C'est-à-dire que vous prenez une balle de calaf et en même temps vous faire égorger.
Vous avez dit l'essentiel, c'est-à-dire, le risque pour, évidemment, les populations. Vous avez dit à la fois le risque terroriste et le risque de violence. D'ailleurs, les deux sont souvent corrélés et interreliés.
Il y a une chose qu'on n'a pas dit, c'est que, et Sabrina l'a rappelé, elle dit à Sevran et en Seine-Saint-Denis de manière générale, l'État recule. C'est tout de même curieux quand on sait que c'est précisément là, dans cette région.
L'État recule, mais les policiers y sont.
Oui, mais c'est d'autant plus curieux que c'est là, dans cette région, que l'État a mis le plus d'argent. C'est l'un des départements les plus dotés.
Mais dans quelle poche est parti cet argent à un moment ? Dans quelle poche est parti cet argent ?
Parce que arroser les associations,
les bonnes, c'est le triptyque. Apparemment.
Non, mais il y a eu des bonnes poches. Il y a eu des
lourdes poches.
Non, mais il y a eu des
caïds.
Si vous regardez
dans les cages d'escalier, élections. Enfin, je veux dire, c'est un classique, ça.
Le maire de Xavier Lemoyne, le maire de Montfermeil, il explique qu'il a réussi à récupérer le pouvoir et à faire quelque chose de sa ville grâce au plan Bordeaux de 40 milliards. Donc, si vous avez un maire courageux qui utilise l'argent pour casser les tours, pour reconstruire des pavillons, pour s'affronter, pour oser s'affronter aux bandes, hein, c'est-à-dire risquer sa vie, celle de sa famille, celle de ses filles, parce qu'il faut savoir que tous ses enfants sont partis de la ville, qu'il s'est retrouvé avec des bonbonnes de gaz chez lui, qu'il s'est fait tirer dessus, mais il est resté. Et justement, c'est là où Jenny avait raison tout à l'heure, c'est qu'il faut avoir la population avec soi. La population, elle va où ? Elle va au plus fort. Donc si elle voit qu'un représentant de l'État résiste à la violence légitimée avec lui, ose affronter les bandes rivales, la population va suivre le maire. Par contre, si elle voit que le maire fuit ou pire pactise, et malheureusement la majorité ont pactisé, ils vont direct au dealer, c'est plus simple. On passe pas par le sous-fifre.
On va continuer à en parler. On va aussi surveiller le blocage des lycées en cours en Île-de-France. Mais tout d'abord, le rappel des titres avec vous, cher Mickaël.
Réunion d'urgence au Qatar face à l'impasse des négociations pour une trêve à Gaza. Les médiateurs internationaux tentent d'arracher un accord, mais se heurtent à l'inflexibilité des deux camps. La parole est aux enfants dans le procès en appel de l'attentat de Nice. En première instance, le président avait estimé que leur place n'était pas dans un tribunal, mais certains ont insisté pour être auditionnés. Deux enfants sont donc entendus aujourd'hui par visioconférence. Et puis après les étudiants, c'est au tour des lycéens de se mobiliser pour soutenir la cause palestinienne. L'Union syndicale lycéenne a appelé au blocage des lycées partout en France aujourd'hui et demain.
Eh bien justement, Mickaël, on va rester sur vos images avec ce blocage organisé donc à Nantes. Blocage de lycée, je le rappelle, après les manifestations et les rassemblements. Alors, pro-palestinien ou plutôt anti-israélien me semble plus adapté. Sciences Po Paris, certaines universités et les lycées. C'est l'Union syndicale lycéenne qui a appelé au blocage, en particulier en Île-de-France. Ça reste très faible à l'heure actuelle en Île-de-France, mais plutôt, regardez, à Nantes, ça s'organise. Regardez aussi ce sujet, il vous est présenté par Tancrède Guillotel.
Après être venus soutenir les étudiants vendredi dernier au Panthéon, les lycéens veulent maintenant assurer leur propre mobilisation. En fin de semaine dernière, l'Union syndicale lycéenne a ainsi appelé dans un communiqué au blocage des lycées aujourd'hui et demain. Selon le syndicat, plusieurs dizaines de lycées, majoritairement situés en Île-de-France, devraient être complètement bloqués. Une situation qui agace Kevin Bossuet, professeur d'histoire en banlieue parisienne.
Le rôle d'un professeur, c'est d'enseigner, et le rôle d'un élève, c'est d'étudier et d'aller en classe. C'est ça la normalité. Quand on veut faire de la politique, on peut, mais on le fait en dehors, dans un parti, dans une manifestation, dans les médias, pourquoi pas, mais certainement pas dans un établissement scolaire.
L'Union syndicale lycéenne demande un cessez-le-feu à Gaza et la reconnaissance de l'État palestinien. En novembre dernier, Plusieurs lycées parisiens avaient également été bloqués en soutien à la cause palestinienne. Les forces de l'ordre avaient alors mis en place un corridor pour faciliter le passage des lycéens qui souhaitaient assister au cours.
Et hier, Emmanuel Macron a condamné ces blocages tout en affirmant comprendre que certains puissent être touchés, attristés par ce qui se passe à Gaza. Est-ce que c'est une position d'équilibre que vous comprenez, Eugénie Bastier, du président ?
C'est bien sûr qu'on peut comprendre que certains soient touchés par ce qui se passe à Gaza. Simplement, c'est pas, à mon avis, le cœur de ces manifestations, qui sont des manifestations avant tout anti-israéliennes et qui portent des slogans extrêmement radicaux, du fleuve à la mer, etc. Et qui, évidemment, ne se mobilisent que pour cette cause particulière qui est la cause israélo-palestinienne. On ne se mobilise pas pour les Ouïghours, on ne se mobilise pas pour l'Ukraine, on ne s'est pas mobilisé pour la Syrie. D'ailleurs, Rima Hassan a eu beaucoup de mal à répondre à une interrogation. On lui demandait si le génocide des Ouïghours était un génocide ou pas. On ne se mobilise que pour Israël parce que derrière, ça répond à une idéologie qui est véhiculée dans une certaine jeunesse qui consiste à voir l'Occident comme un oppresseur colonial, et Israël représenterait le summum de cette oppression. Et en fait, quand on regarde, c'est vrai que quand on regarde les sondages, par exemple, sur les européennes, il y a une partie de la jeunesse qui, effectivement, est assez radicalisée. On voit que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon fait 18% chez les 18-24 ans, et la candidate Europe Écologie Les Verts, Marie Toussaint, fait également 17% chez les 18-24 ans, ce qui donne un total à peu près à 35% chez les 18-24 ans, qui se tournent vers des partis, disons, woke, pour le dire vraiment très rapidement, en tout cas progressistes, et qui, sur ces questions-là, ont un agenda très précis. Donc il y a une partie de la jeunesse, effectivement, qui adhère à cette théorie, qu'il ne faut pas minorer. Mais ce qu'on voit, c'est que dès qu'on passe à la génération au-dessus, celle qui se met à travailler 35 ans, eh bien, ces partis s'effondrent. Jean-Luc Mélenchon ne fait plus que 11%. Donc je pense que c'est vraiment le cœur de cible de LFI, les lycéens et les
Est-ce que c'est nouveau ? Ce que vous avez dit là me rappelle dans les livres d'histoire ce qui s'est passé aussi en Algérie avec le FLN et la guerre d'Algérie et le Hamas, c'est quasiment les mêmes slogans.
On peut dire même que ça tourne en rond. Bien sûr que ça tourne en rond, parce qu'en fait, tous ces slogans postcoloniaux ont été...
Le slogan de
la rivière à la mer, from the river to the sea, c'est un slogan qui a été créé dans les années 70. Et les premiers comités palestiniens ont été créés dans les années 70. Et n'oublions d'ailleurs jamais que Danny Cohn-Bendit a lancé mai 68 en se mobilisant contre les prisonniers de la guerre au Vietnam.
Donc le catalyseur
postcolonial, elle habite quand même l'extrême
gauche. Donc le catalyseur de ces slogans de haine, c'est la figure de l'Occident
colonisateur. Finalement, Israël devient le bouc émissaire de l'intersectionnalité tel qu'il est incubé sur les campus et dans cette jeunesse-là depuis des années. C'est pour ça qu'il y a une telle mobilisation qui prend une telle ampleur sur ce conflit précis qui n'a jamais eu d'équivalent pour d'autres conflits.
Mais expliquez-moi.
Alors même que la jeunesse pourrait s'en sentir concernée.
J'ajoute une question. Est-ce que vous n'allez pas sonder les cœurs et les reins, mais est-ce que vous estimez que tous sont acquis, j'allais dire, à la cause, acquis à une cause terroriste du Hamas, ou est-ce que certains, vraiment, vous dites non ? Je fais la différence que, par exemple, Aurore Berger-Lamy, ça veut dire soit ils sont ignorants, soit ils sont antisémites.
Non, je crois que la plus grande confusion règne. En tous les cas, il y a un point qui vient d'être soulevé qui est important, c'est effectivement qu'on est là dans des revendications décoloniales. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que cela, le Parti communiste avait parlé, pour ce qui est de l'État d'Israël, d'un État apartheid, souvenez-vous. Donc, on est là dans des revendications décoloniales. Et je pense qu'ils ne se rendent pas compte. Ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'au nom de la liberté d'expression, on bloque. Alors c'est curieux, parce qu'on demande de la liberté et en même temps on se comporte en bloquant. Ça me paraît être totalement antinomique. Et quant à la remarque du président de la République, on est encore une fois dans le en même temps. C'est-à-dire, je comprends, il ne faut pas bloquer, c'est pas bien, mais je comprends que la cause palestinienne puisse être hors derrière. On voit bien que c'est moins la cause palestinienne que des propos anti-israéliens.
Ça me rappelle le débat, mais très vif, c'était entre Sartre et Camus. Et Camus avait dit rien ne justifie... La phrase exacte, c'était... Et beaucoup lui ont reproché cette phrase.
En fait, Sartre, au moment de la guerre d'Algérie, a tenu des propos où il défendait le terrorisme du FLN. Il a aussi défendu le terrorisme palestinien en 1972, après les JO de Munich, où il a dit que le terrorisme c'est la seule arme des faibles. Les Palestiniens étant faibles et dominés, ils n'ont que cette arme pour agir. Et il avait justifié l'assassinat des athlètes israéliens à Munich. Il faut quand même s'en souvenir. Hein,
ça. Et Camus disait rien.
C'est pas des propos qu'on trouve facilement. Voilà. Parce que, et d'ailleurs, je les ai retrouvés en lisant le livre d'Oria Boutedja sur l'indigénisme. Parce que, évidemment, ils sont pas mis en valeur aujourd'hui parce que ça donne pas une très belle image de Sartre. Mais Sartre avait justifié le terrorisme. On a exactement la même logique aujourd'hui. Le Hamas, c'est le FLN pour ces gens-là. C'est un mouvement légitime de résistance à l'oppression coloniale. Et c'est pour moi le parallèle est
très intéressant. Vraiment... C'est pour ça que la France insoumise parle, en tout cas certains parlent de résistants pour le Hamas, reprenant ce qui était dit à l'époque sur
d'ailleurs, le FLN.
Le FLN
à l'époque,
Front de Libération Nationale,
avait fait des attaques du type du 7 octobre où ils avaient égorgé des bébés dans des
Et ils sont revendiqués pour propager la terreur.
Exactement, ils propageaient la terreur en espérant une répression coloniale extrême qui pouvait ensuite faire gagner l'ensemble de la population en leur faveur.
C'est passionnant. On va marquer une pause parce que le débat est là. Parce que quand on dit on s'offusque, on s'étonne, il faut voir aussi dans l'histoire ce que c'était pour comprendre aujourd'hui, évidemment, ce qui est en cours. On va insister sur cela. Je voudrais qu'on parle aussi de Colombe. Vous l'avez vu, cette séquence, 5 millions de vues. Une analyse que je trouve hier au laser de Jérôme Fourquet. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et d'autres sujets, tout de suite. Merci d'être avec nous. La suite de Midi News, nous allons vous parler de Colombe dans quelques instants. Vous la connaissez peut-être, faites-vous partie de ceux qui ont les 5 millions de personnes qui ont visionné sa vidéo, cette électrice RN. Mais tout d'abord, les titres avec vous, Mickaël.
À deux jours de l'arrivée de la flamme olympique, la métropole de Marseille hausse le ton et demande au préfet la réquisition des éboueurs. Depuis mardi dernier, les agents des 4e et 5e arrondissements de la ville sont en grève. En prison, un détenu sur quatre fume quotidiennement du cannabis. C'est ce que révèle une étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Il s'agit de la première enquête représentative sur ce sujet à l'échelle de la France. Et puis une opération d'évacuation a été lancée à l'est de Rafah par l'armée israélienne. Environ 100 000 personnes seraient concernées. Tsahal encourage les habitants à se rendre dans les zones humanitaires. Hier soir, Benjamin Netanyahou a rappelé que rien n'empêchera Israël de se défendre.
Elle s'appelle Colombe, elle est électrice Rassemblement National, elle est au RSA en grande difficulté, elle est ou elle était bénévole chez les Restos du Cœur, elle est poussée vers la sortie depuis qu'elle a parlé face caméra chez nos confrères de LCI-TF1 de son vote pour le RN. Je voudrais qu'on écoute l'analyse du politologue Jérôme Fourquet hier au Grand Rendez-vous.
C'est pas un hasard si cette vidéo a été visionnée 5 millions de fois, d'abord parce qu'elle est émouvante, mais aussi parce qu'elle raconte une partie de la réalité sociale et politique de ce pays. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Eh bien, que toute une partie de l'électorat populaire, jadis, qui votait traditionnellement plutôt à gauche, est passée aujourd'hui, avec armes et bagages, du côté du Rassemblement national.
Bon, c'était un peu plus long en réalité. Il explique aussi quand même qu'il y a plus que ce mouvement de vase communicant, une forme d'humiliation en réalité vécue par ces électeurs, ces classes populaires, dans ce cas pour classe populaire pour Colomb, pas tellement classe moyenne. Et surtout, il est offusqué de la réaction ou surréaction des Restos du Cœur. Qu'est-ce que ça vous inspire, Sabrina Medjeber?
Ce que dit Jérôme Fourquet est très vrai. D'ailleurs, on l'a vu concernant l'échec de Jean-Luc Mélenchon face à Marine Le Pen en 2012 à Hénin-Beaumont. Ou dans un bassin minier, la fibre sociale du programme politique de Marine était déjà en réalité programmatique pour celle de son parti. Donc évidemment que Marine Le Pen touche le cœur de ces Français qui ne sont pas des Français de classe populaire, mais qui sont des Français de classe de pauvreté très très précarisée. Ouais. Elle explique qu'elle touche le RSA, etc., que sa vie est très très difficile. Donc si vous voulez, cette réalité... sociale, Marine Le Pen l'a très bien comprise et évidemment cette dame, elle s'effondre parce qu'elle se retrouve face à une caméra, elle explique son cas et le comble c'est qu'elle travaille pour les Restos du Cœur étant elle-même précarisée et elle se fait complètement ostracisée par la suite. D'ailleurs les Restos du Cœur ont décidé de ne plus l'employer parce qu'elle vote RN, donc c'est ça qui est en fait aberrant dans cette histoire. Mais sur l'analyse sociologique de la composition électorale et de la programmation, on va dire, du programme idéologique de Marine Le Pen, il est évident qu'aujourd'hui, personne ne le nie. Jérôme Fourquet l'a expliqué dans l'Archipel, il l'explique très bien dans La France d'après. Il y a effectivement un agrégat
de toutes les inquiétudes qui concernent les Français, que ce soit l'immigration, l'insécurité et surtout le pouvoir d'achat et la fibre sociale. Marine Le Pen l'a très bien comprise et elle l'utilise, elle la maîtrise en tout cas beaucoup mieux que ses adversaires dans son discours politique.
Il y a deux responsables politiques de gauche qui sont intervenus, dont l'un a écrit une lettre à Colombe pour essayer de la convaincre. Il y a le jeune candidat communiste aux élections européennes et François Ruffin, etc. Alors que Jean-Luc Mélenchon l'a théorisé totalement. Hein. C'est-à-dire, on abandonne ces classes-là pour aller vers les banlieues et essayer de...
Bah, l'effondrement du Parti communiste s'explique par ça aussi. C'est-à-dire que le vote populaire est passé effectivement extrême droite.
Et Mélenchon vous compte, en un moment de transition, on a pu appréhender des années de
oui, c'est l'allégorie, d'évolution politique. C'est un moment allégorique, en fait.
Ouais, c'est
et puis même la réponse en fait, des Restos du Cœur était elle-même une allégorie de ce qui ne va pas. Parce que au lieu de se poser la seule bonne question, c'est pourquoi cette dame qui devrait voter à gauche puisqu'elle a des préoccupations sociales vote le Rassemblement National, eh bien, on lui donne comme seule réponse le sectarisme le plus absolu, et un sectarisme particulièrement injuste parce qu'elle a été interrogée au débotté par un journaliste, elle n'a jamais fait valoir son engagement ni sur les réseaux sociaux, ni elle s'est jamais présentée à une élection, etc. Donc c'est vraiment, je trouve, une réaction complètement arbitraire et honteuse des Restos du Cœur. Par ailleurs, c'est une belle association qui aide énormément de gens. Et cette dame qui n'avait pas de travail était bénévole. Enfin, c'est vraiment une allégorie pour moi de ce qui ne va pas dans la réponse à la gauche à ce vote Rassemblement National. Alors beaucoup de choses ont été dites sur Colombe et je pense qu'il y a un élément qu'il faut souligner, c'est aussi son âge. Voilà, 60 ans, c'est donc une dame qui retrouvera certainement pas de travail. Et 60 ans, c'est aussi on prend pas assez en considération le facteur démographique dans la politique en France. Et on voit que là où le Rassemblement National fait les plus gros scores, c'est dans l'accord d'âge 50-60 ans. Alors, ils sont à 40% pour les européennes, 40%. C'est une classe d'âge qui vote quasiment à majorité pour le Rassemblement National. Et c'est un fait majeur parce que c'est une classe d'âge qui travaille, en l'occurrence elle n'a pas d'emploi, mais elle aimerait travailler, qui a le goût du travail, qui est souvent d'ailleurs ne trouve pas de récompense à ce travail. Et c'est une classe d'âge aussi qui a été déclassée, c'est pas celle des boomers qui sont la génération sans pareil, qui ont eu des logements à bas prix, plein emploi, prospérité, paix, etc. C'est une génération qui a été frappée de plein fouet par la crise et par le déclassement français. Et donc Colombe représente aussi cette cohorte d'âge qui fait le succès aujourd'hui du Rassemblement National, c'est des 50-60 ans.
Et puis la question sociale a explosé un peu dans la campagne des européennes, parce qu'on a parlé de tout, sauf de ce sujet-là aussi, Arthur de Vatrigan, entre Gaza, ce qui se passe aussi dans nos universités, c'est un peu au retour au réel, et la dure réalité par cette séquence.
Oui, bien sûr, mais après c'était le sujet principal de la présidentielle. De la dernière présidentielle. Mais là, ce qu'on voit, c'est une confirmation que la philosophie de la gauche fonctionne uniquement avec des victimes et que c'est des réponses aux victimes, sauf que Colombe est trop blanche, trop française pour être une victime. Et ça, c'était théorisé par Terra Nova. Et on voit surtout les ravages de l'arc républicain. Pourquoi elle est exclue des Restos du Cœur? C'est parce qu'on nous a expliqué pendant 30 ans que le Rassemblement National et l'Action Nationale, c'était le diable. Donc c'est une des conséquences aussi politiques de ça, une conséquence, une responsabilité des responsables politiques, mais aussi médiatiques, qui passent son temps à diaboliser les partis. Et donc forcément, on a une espèce de réflexe un peu bête et idiot de dire « tu votes pour le diable, et ben t'es exclu ». Alors que, a priori, quand on vote pour quelqu'un, pour un parti, c'est pour chercher des solutions. C'est comme si on était malade et qu'on allait prendre un médicament. Et là, on vous explique... on ne lui dit pas, tu te trompes d'un médicament, on lui dit, je te jette de l'hôpital, en fait.
Ouais.
C'est ça, la réalité. Ouais. C'est juste ignoble.
On va continuer à en parler. Je voudrais insister sur une autre séquence pour parler d'une personne en particulier. Alors là, on va parler de la visite du président chinois en France. Il s'est entretenu, évidemment, avec Emmanuel Macron, mais il y avait une autre personnalité présente. Alors, ça peut paraître logique pour certains. Pour d'autres, on peut quand même s'interroger. Qui est-ce, à votre avis?
Aucune idée, ma chère Sonia.
Aucune idée? Qui peut prendre part au dialogue sino-français?
Jean-Pierre Raffin.
Ursula von der Leyen. Oh. Ah. Oui. Non, mais, alors, je l'ai vu sur l'image. Donc, alors, je m'interroge, non pas à toute sa légitimité, évidemment, en tant que présidente de la Commission européenne, mais que fait-elle là, dans le dialogue entre le président chinois et le président français? Donc, quand on parle à l'immense empire chinois, la présidente de la Commission européenne est présente. Ça ne vous interpelle pas? Vous trouvez ça normal?
C'est surtout un contraste par rapport à la... Parce que si Xi Jinping est en France aujourd'hui, c'est parce que nous on commémore l'anniversaire de la reconnaissance de la Chine par le général de Gaulle. Et à cette époque-là, effectivement, le général de Gaulle menait une politique assez solitaire. Il faisait valoir l'indépendance justement de la France, qui n'était pas alignée sur les États-Unis. Aujourd'hui, on voit bien que cette politique solitaire de la France n'est plus possible. Il faut absolument l'accompagner par la Commission européenne. Et je pense qu'Emmanuel Macron n'était pas obligé de faire venir Ursula von der Leyen. Il pouvait aussi assumer une politique française, une originalité française sur ce sujet, sachant que d'ailleurs, nous n'avons pas les mêmes intérêts que les intérêts des Allemands, par exemple, dans notre confrontation.
Et même parfois opposés. Mais c'est intéressant, parce que c'est une cohérence d'Emmanuel Macron qui se voit, qui se pense, qui respire, qui vit en européen, et que même dans un dialogue avec la Chine, Mme Ursula von der Leyen est là pour rappeler que la souveraineté ne peut se décliner que sur le plan européen.
Exactement. Il ne vous aura pas échappé qu'il ne parle pas de souveraineté nationale, mais qu'il parle de souveraineté européenne. Son axe, c'est véritablement l'Europe. À tout point de vue, d'ailleurs. Il est, de ce point de vue, effectivement, très cohérent.
Après, c'est empire contre empire. Il voit, von der Leyen penche l'Europe comme un empire, bien aidé par l'Allemagne qui a réussi à faire au XXIe siècle ce qu'elle n'a pas réussi à faire au XXe siècle. Avec pas les mêmes conséquences, évidemment. Donc, c'est d'empire en empire on parle. Et Emmanuel Macron, de toute façon, a acté depuis bien longtemps et ne cesse de le répéter. Pour le coup, s'il n'y a pas de en même temps, et c'est le seul sujet où il est fiable et il n'a pas changé et cohérent depuis 2017, c'est sur l'Europe. C'est-à-dire, quand quelqu'un vous explique qu'il veut bien remettre offrir l'autre souveraineté nucléaire à l'Europe, bon, bah, inviter Mme von der Leyen pour négocier avec les Chinois, c'est moins choquant.
Alors, vous avez entièrement raison, mais moi, je pense que quand même, il nous reste une part de grandeur. Et je trouve qu'immédiatement, lors de cette visite, trouver Mme Ursula von der Leyen, je n'ai rien contre elle, mais à la table des discussions, c'est quand même tout de suite dire que tout se joue au plan européen, qu'il n'y a plus de souveraineté française et nationale.
C'est bien avec l'élection européenne, au moins on sait quels sont les clans, qui veut quoi, qui pense quoi. Il n'y a pas d'habillage.
Mais surtout, comme l'a dit Eugénie, il peut y avoir des contradictions et même des intérêts divergents à l'intérieur de l'Europe.
Macron, alors qui parle France, là. Il parle au nom de l'Europe, il ne parle jamais au nom de la France, Emmanuel Macron. Jamais.
Sabrina. C'est une cartographie à la fois de son échec et à la fois de son ambition. C'est-à-dire que Emmanuel Macron est complètement... La politique française, le régalien, l'identité française, la culture française, la souveraineté française, l'intérêt économique français, tout ça, ça ne le concerne pas. Et le fait que Mme von der Leyen soit là face à un président, le président d'un empire économique, et ben c'est une façon pour lui de croire qu'elle peut lui faire une courte échelle quant à ses ambitions, effectivement, de ce fédéralisme européen dont on a parlé ces derniers temps, notamment avec la dissuasion nucléaire, etc. Et il sait très bien, Emmanuel Macron, que de toute façon, enfin, en tout cas, il pense que la France n'existe plus, puisque de toute façon, depuis Maastricht, la France n'existe plus, que tout est question de principe de subsidiarité, tout est question de ce droit supranational, droit européen supranational, c'est dans notre constitution. Enfin, tous ces ingrédients-là sont présents pour prouver qu'en réalité, Emmanuel Macron n'est pas un chef d'État qui assume son rôle de chef d'État de la République française, et que finalement, face à un empire, face à Xi Jinping, il est obligé finalement d'être accompagné de Madame von der Leyen pour éventuellement négocier des contrats ou en tout cas dans ses intérêts économiques.
Cette image, je la trouve très forte. Avec les trois drapeaux derrière. Et ce n'est pas du tout être anti-européen que de le dire, c'est de comprendre aujourd'hui...
Enfin, vous avez là à l'image un président de la République française qui vous a dit un jour, il n'y a pas de culture française.
Il est revenu sur ce qu'il avait dit, mais vous l'avez...
Moi, j'en suis pas revenu, si vous voulez. Moi, j'ai parfaitement compris. J'ai parfaitement compris le message qui était envoyé. Il a beau revenir, etc. Quand vous êtes président de la République française et que vous osez dire il n'y a pas de culture française, ça signe quand même une certaine philosophie.
Arrêtons-nous. Ça veut dire aujourd'hui que la voix de la France ne pèse pas, qu'il faut avoir Mme Ursula von der Leyen autour de la table pour discuter avec l'ogre, si je puis dire, chinois.
Bien sûr.
Non, mais alors je pense déjà que Emmanuel Macron veut aussi se passer en contraste, parce que vous savez que Xi Jinping va faire deux autres visites en Europe ensuite, il va en Serbie et en Hongrie, ce qui est un peu humiliant d'ailleurs pour la France et pour Emmanuel Macron, puisqu'il en fait finalement il met sur le même au même niveau, il ne singularise pas sa visite en France, mais il en profite pour aller voir deux autres pays, la Serbie où il sera au moment de la commémoration des bombardements de Belgrade, et c'est aussi un signe envoyé à l'OTAN, et la Hongrie, évidemment, de Viktor Orban. Et là, je peux vous dire que von der Leyen ne sera pas conviée. C'est une manière pour lui de diviser aussi l'Europe. Et c'est vrai que c'est là où on voit les limites de la construction européenne. C'est-à-dire que, oui, effectivement, avoir des accords commerciaux, développer le libre-échange, faire même du protectionnisme européen, ça a du sens, évidemment, mais nous n'avons pas les mêmes intérêts économiques. Et nous n'avons même pas les mêmes intérêts stratégiques, puisque la Hongrie, par exemple, est beaucoup plus favorable à la Russie de Vladimir Poutine. Oui. Donc ça la dérange moins que la Chine aide la Russie. L'Allemagne exporte énormément d'industrie, ce qui n'est pas notre cas. Nous avons peur des répliques chinoises sur le vin et les produits de luxe français. Donc on n'a pas du tout les mêmes intérêts.
Au nom de quel pays parle
Je ne vois pas d'unité
l'Allemagne, aujourd'hui. Vous avez vu le choix de la table?
Elle a été ministre.
C'est une table ronde. Une table ronde à trois, il n'y a personne qui préside. Au niveau de l'image, c'est quand même assez effrayant.
Le sens de la scénarisation.
Pardon, mais je ne sais pas si c'est dans le protocole d'avoir une table ronde.
C'est ce qui m'a interpellé.
Ce n'est pas le protocole, c'est un choix volontaire. Et dans une table ronde, il n'y a pas de président. C'est un peu angoissant quand on reçoit au nom de la France.
On va attendre aussi ce qui va ressortir de ces discussions qui ne sont plus bilatérales, mais tripartites désormais, avec la présence d'Ursula von der Leyen. Je voudrais vous faire réagir à présent à une séquence qui a été abondamment commentée ces dernières heures, une séquence à Ajaccio en Corse où l'on voit Éric Zemmour pris à partie par des militants. Il est traité de fasciste, de raciste. Il essuie un jet d'œuf de la part d'une militante et il va réagir vivement. Vous allez voir la réaction, dans quelques instants, la réaction de Sarah Knafo. Par honnêteté, je précise pour ceux qui ne le savent pas que c'est aussi sa compagne. Elle est numéro 3 sur la liste Reconquête. Mais tout d'abord, les titres avec vous, Mickaël.
Deux hommes tués hier en pleine rue, ça s'est passé à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Les victimes étaient connues des services de police, notamment pour trafic de stupéfiants. Gérald Darmanin veut accélérer l'expulsion des étrangers délinquants. Dans un télégramme au préfet, le ministre de l'Intérieur demande d'augmenter les cadences. En déplacement dans un centre de rétention administrative, il s'est également félicité de son bilan. Et puis au moins 6 morts et 35 blessés dans la région russe de Belgorod après une attaque de drones ukrainiens dans une zone frontalière de l'Ukraine. Il s'agit, selon le gouverneur de la région, d'une zone régulièrement visée par des frappes ukrainiennes.
Il y a deux manières de raconter une scène. Il y a eu deux récits. Il y a même eu deux récits médiatiques et politiques. Ceux qui ont affirmé que, c'est la réalité. Éric Zemmour a bien été pris à partie par des militants d'extrême gauche. Et puis vous voyez cette militante qui lui a jeté un œuf sur la tête. Et puis ensuite, les versions divergent. Beaucoup ont vu, à travers cette image, une réaction violente de l'ancien candidat à la présidentielle. Quand, Sarah Knafo, ce matin, à la grande interview, et qui fait partie de son entourage et qui est numéro 3 sur la liste Reconquête, il y a vu un geste de légitime défense. Écoutons-la.
Il n'a pas réagi à l'encontre d'une femme, il s'est dégagé d'un agresseur. Une personne qui vient, qui vous frappe à la nuque par derrière violemment, qui vous casse un œuf sur la tête, qui ne réagit pas aux sommations de la police et qui, avec ses 12 amis, piétine, comme vous le voyez sur l'image, les jeunes femmes qui étaient auprès d'Éric Zemmour, ça ne s'appelle pas une femme, ça s'appelle un agresseur. Au sens du code pénal.
Alors c'est très intéressant parce qu'il y a la manière dont on raconte ce qui s'est passé et puis ne pas faire de différence entre hommes-femmes comme le font certains et cette polémique a pris de l'ampleur.
Il me semble quand même que c'est une revendication des féministes de ne pas faire de différence entre les hommes et les femmes. Donc on ne peut pas être à la fois féministe et dire les femmes sont pareilles que les hommes et demander un traitement de faveur lorsqu'une femme agresse un homme. Et moi, je trouve que autant.
Pardonnez-moi, il y a quand même débat, parce que quand on dit violence sexiste, ou violence.
J'ai vu les images, c'est quand même d'abord Éric Zemmour qui s'est fait agresser d'une extrême violence.
De manière générale.
Et je dois dire que pour avoir vécu moi-même un entartage en public, il n'y a rien de plus désagréable, voire même humiliant, que de se faire agresser en public par un militant qui vient vous jeter quelque chose au visage. C'est extrêmement désagréable et je comprends totalement cette réaction humaine. D'Éric Zemmour, de là à dire que c'est un exemple, peut-être pas, parce que c'est jamais un exemple de céder à ses pulsions, mais en tout cas c'est complètement humain et je le comprends tout à fait parce que, encore une fois, il a été agressé par une jeune femme. C'est le degré zéro de la politique et du débat de vouloir faire taire
le camp Goldwyn,
des politiques et de leur jeter des choses au visage.
Les politiques ont toujours tort quand ils répondent.
La sécurité d'Éric Zemmour, oui, alors je connais pas le dispositif.
C'est l'un des hommes les plus menacés
à sa disposition, mais c'est vrai que l'atteindre comme il l'a été témoigne d'une protection qui mériterait peut-être d'être vue. Moi, il m'appartient pas de réagir au comportement d'Éric Zemmour, mais je rejoins ce que disait Eugénie à l'instant. On a affaire à un agresseur, quel que soit le sexe. juridiquement, pénalement, c'est un agresseur. C'était un œuf si ça avait été un pavé. Ça, on aurait dit quoi ? Quelle aurait été la réaction
ou un couteau.
Des autres ? Ou un couteau. Voilà, donc il y a une agression, pénalement c'est répréhensible. Donc voilà, après le comportement, ça, c'est humain. Est-ce qu'un homme politique de cette envergure devait réagir de la sorte ? Ça pose interrogation.
Non, je pense que ça le dessert.
Et également.
Ça dessert pour vous ?
Ah, ou je crois que le problème du politique, lorsqu'il est comme ça agressé, dans l'absolu. Il ne devrait, pour son image, il ne devrait pas répondre. Là, je pense que c'est...
Ça dépend, il y a des séquences dans l'histoire qui ont... Pour François Bayrou...
Voilà. Mais d'après ce que j'ai vu, la réponse d'Éric Zemmour est une réponse réflexe. C'est ce que j'ai vu sur les images. Et donc, il n'arrive pas à discerner, d'ailleurs, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. La question ne se pose pas. Il est agressé, il a un réflexe, il répond. C'est tout à fait humain.
Au mais bout c'est de combien d'agressions on a le droit de répondre, en fait
oui.
C'est ça la question, parce que là, c'était pas juste une fois. C'est l'agresseuse, parce que les femmes ont le droit d'être agresseurs, donc je vois pas. Oui, on dirait que c'est pas une femme, c'est une agresseuse. C'est, elle l'a fait deux fois, déjà. Bon, elle réitère. Vous avez donc Éric Zemmour qui est sous protection policière, qui fait pas un déplacement sans se faire agresser et insulter, qui est menacé de mort et s'est pris au sérieux. Donc, bon, il a peut-être tous les défauts du monde, mais je ne crois pas qu'il ait encore des yeux dans le dos. Donc vous avez quelqu'un qui l'attaque par derrière pour la deuxième fois, et lui ne devrait rien faire. Bon, nom de quoi, en fait ? Moi, je trouve ça rassurant. C'est juste protéger sa vie, de se défendre comme ça. Et juste sur le récit médiatique qui est effrayant, on a eu quand même une semaine assez lunaire. Ça a commencé avec Matisse, on nous a expliqué peut-être qu'il est raciste. On a eu la journaliste à carte de presse qui insulte la France entière de dégénérer et de raciste. Et on nous dit, en fait, c'est elle la victime. Et là, on a Éric Zemmour qui se défend et on nous dit, c'est lui qui tape une femme. Non, mais dans quel monde on vit, quoi ? C'est complètement lunaire.
En France.
C'est contre-récit, quoi. Et d'où un contre-récit qui est mené de tombeau battant par le service public. Hein. Parce que pour Matisse, pour la militante à carte de presse et pour Éric Zemmour, il faut voir les titres de presse qu'ils ont fait. C'est juste effrayant.
Je suis d'accord avec vous. Sur Éric Zemmour, évidemment, c'est totalement inadmissible et condamnable. Mais ce qui m'a intéressé, c'est la manière ensuite dont le débat a été appréhendé par rapport au sexe de l'agresseur ou de l'agresseuse. Je ne sais pas comment il faut le dire, Sabrina Medjeber. Je vous avoue, moi, c'est une véritable question. D'abord, un politique doit-il garder son sang-froid, quoi qu'il arrive ? On a les séquences, mais là, il avait été insulté, c'était Jacques Chirac. Quelqu'un lui dit « connard » et lui dit « moi, c'est Jacques Chirac, enchanté
oui. ».
Et là, vous dites « bon ».
Oui, mais c'est une insulte,
c'est pas une masterclass, quand même.
Exactement. Ah oui.
Et c'est une masterclass.
Ah oui,
à la Jacques Chirac, et la question se pose. On ne sait pas comment on réagirait à la place, mais le fait que beaucoup de responsables politiques et de féministes aient réagi en disant « mais comment il peut s'en prendre à une femme ?» C'est ça ce qui m'intéresse aujourd'hui. Comment la femme que vous êtes, et puis l'essayiste et la sociologue réagit.
Déjà, ça montre effectivement une baisse vraiment du niveau d'instruction par la manifestation de cette extrême violence, mais qui en plus est une violence lâche puisque ça attaque toujours dans le dos. Eugénie en a parlé. Moi, quand j'ai discuté avec des policiers lorsque j'étais très menacée, on m'a bien dit, on m'a bien fait comprendre, fais attention, parce qu'ils arrivent toujours dans le dos. Ils tapent toujours dans le dos. Donc c'est une technique assez classique des agresseurs qui sont généralement pas très courageux pour affronter sur le plan des idées, au moins interpeller et discuter sur le plan des idées un homme politique avec lequel on n'est pas d'accord. C'était même arrivé une fois, je me souviens très bien, lorsqu'il s'était fait insulter à côté du Printemps, boulevard Haussmann,
oui.
Et que Alain Bentolila, qui est un linguiste, l'avait interrogé, ce garçon, et il disait... Mais en fait, moi, j'ai pas de vocabulaire. Je suis obligée de l'insulter je suis désolée de le dire, mais de fils de pute, parce qu'en fait, ce type-là, ce mec-là, est trop intelligent et je pourrais pas débattre avec lui. Donc, ça démontre aussi, voyez-vous, un niveau de baisse d'instruction du langage qui, en fait, laisse place, en réalité, au débordement pulsionnel, à l'empêchement de l'élaboration mentale. Pour préparer ou discuter avec un opposant politique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Eugénie a tout à fait raison, et ça me fait penser, parce qu'hier dans le train, je revenais de Perpignan, je regardais le compte Twitter de Sandrine Rousseau, qui alors aujourd'hui fait l'apologie de la prostitution. Donc il y a un article dans Le Monde qui est relayé de Sacha, qui se prostitue, et elle trouve que c'est absolument incroyable pour les femmes qui font appel donc à des gigolos. Donc c'est encore une fois la surenchère de ce deux poids deux mesures, où lorsque certains certaines femmes sont agresseuses, eh bien, bon, bah, il ne faut pas non plus les ostraciser parce que ça reste des femmes et des victimes. Mais quand ce sont des femmes qui utilisent des hommes pour se prostituer, eh bien, là, c'est grandiloquent, c'est mirifique, c'est mirobolant, et ça. Donc, voilà, donc il y a un double discours dans la substance du langage et de la réflexion de ces féministes qui est assez inquiétant.
On va continuer à en parler. On va aller en Grande-Bretagne, tout autre chose, avec des élections municipales. Alors là, incroyable. Il y a incroyable. Quel mot.
Mmh. Oui. Ouais, bah, c'est un préfiguratif, hein.
Interrogation.
Oui, enfin là, c'est vraiment le multiculturalisme à l'épreuve.
C'est Houellebecq.
Ah bah oui, c'est Houellebecq.
Gérald Darmanin qui lance une offensive contre les frères musulmans. Vous êtes rassuré? Vous nous en parlez?
Ah oui, et non. Le timing est intéressant.
Voilà. Et les mesures contre le trafic de drogue. Alors là, ça m'intéresse. Sur les consommateurs. Est-ce que c'est la pression qu'il faut mettre encore plus importante sur les consommateurs? Vous nous direz, Denis Jacob, ce que vous en pensez. Une courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous. La seconde partie de Midi News. On parlera de nouveau de Sevran, puisque Xavier Hofer nous a rejoint et je l'en remercie. Bonjour à vous, criminologue. Sevran, 3 morts en 48 heures. Sevran décrit comme étant le nouveau Marseille d'Île-de-France, mais pas très nouveau quand on sait ce qui se passe depuis des années. Nous irons également en Grande-Bretagne avec des séquences qui traduisent une nouvelle donne politique électorale effrayante en Grande-Bretagne après les élections municipales. Mais tout d'abord, votre journal, cher Mickaël.
Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Gérald Darmanin veut accélérer l'expulsion des étrangers délinquants. Dans un télégramme au préfet, le ministre de l'Intérieur demande d'augmenter les cadences en déplacement dans un centre de rétention administrative. Il s'est également félicité de son bilan. Je vous propose de l'écouter.
Les centres de rétention administrative permettent l'éloignement plus efficace des personnes, notamment dangereuses. J'ai eu l'occasion de dire dans la presse que nous avons augmenté fortement ces expulsions depuis désormais un an et singulièrement depuis le début de l'année grâce à la loi immigration. Depuis le 1er janvier, c'est 60 personnes fichées S qui ont été expulsées. C'est 4 fois plus en rythme que d'habitude. Et nous avons un record d'expulsion des personnes délinquantes du territoire national. Nous allons continuer. Je viens d'envoyer une instruction au préfet ce jour pour rappeler toutes les règles, notamment de la loi immigration.
La parole est aux enfants. Dans le procès en appel des attentats de Nice, 2 mineurs sont entendus aujourd'hui en visioconférence. Noémie Schulz, vous êtes en direct de la cour d'assises spéciale de Paris. Alors en première instance, le président avait estimé que les enfants n'étaient pas à leur place dans un tribunal, sauf que certains, Noémie, ont insisté pour être auditionnés.
Absolument, c'est le cas de Landy et Téliane qui vont tout à l'heure raconter leur 14 juillet 2016. À l'époque, ils n'avaient que 4 et 5 ans et avec leurs parents et leur petit frère de 20 mois, ils ont été percutés par le camion du terroriste. Les deux enfants ont été lourdement blessés, Landy à la jambe, Téliane à la mâchoire. Leur petit frère avait été projeté hors de sa poussette, récupéré par une passante. Ses parents ont mis plusieurs heures avant de le retrouver. Landy et Téliane vont être entendu par visioconférence depuis le palais de justice de Nice. Des auditions qui, vous l'avez dit, ne font pas l'unanimité. Est-ce la place des enfants de venir témoigner devant une cour d'assises? Il y a un an et demi, lors du premier procès, le président avait estimé que non, il avait refusé d'entendre ces petites victimes et préféré donner la parole aux pédopsychiatres et aux parents. Aujourd'hui encore, certaines associations de victimes estiment qu'elles ne sont pas favorables à ces dépositions. Elles craignent que cela ne vienne ajouter du traumatisme au traumatisme. Elles doutent aussi de la véracité des souvenirs, mais certains enfants ont insisté. Landy et Téliane ont 12 et 13 ans aujourd'hui. Ils se sont préparés à cette audition. Ils ont écrit un petit texte, c'est ce que m'a confié tout à l'heure leur avocate. Ils sont prêts. C'est aussi un moyen pour eux de tourner la page.
Merci beaucoup Noémie Schulz. Et puis on termine avec cette information. À 2 jours de l'arrivée de la flamme olympique, la métropole de Marseille hausse le ton et demande au préfet la réquisition des éboueurs depuis mardi dernier. Vous le voyez sur ces images, les agents des 4e et 5e arrondissements de la ville sont en grève. Voilà Sonia, ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à 13h sur CNews. À tout à l'heure.
Merci Mickaël. Et avec notre invité Xavier Hofer, toujours sur ce plateau, Eugénie Bastier, Vincent Roy, Sabrina Menjeber, Denis Jacob, Arthur de Vatrigan. Nous avons évoqué tout à l'heure, Xavier Hofer, ce qui est en cours à Sevran, qualifié de nouveau Marseille d'Île-de-France, alors que cela dure depuis des années. Nouvelle fusillade à Sevran, donc en Seine-Saint-Denis, ce dimanche, après le meurtre d'un homme de 28 ans dans la nuit, déjà de vendredi à samedi. En tout, ce sont 3 morts en l'espace de 48 heures. Écoutons ce matin Alain Bauer. «
Ce dimanche vers 18h, deux hommes ont été tués par balle selon plusieurs sources policières dans le quartier Monceleux-Pont-Blanc, près d'un parc à jeux pour enfants à un peu plus d'un kilomètre du lieu de la fusillade mortelle de vendredi soir. Les victimes, âgées de 31 et 35 ans, étaient connues pour violence et trafic de stupéfiants. Selon une source policière, les deux hommes impliqués dans cette fusillade ont pris la fuite, à pied. D'après le préfet de police Laurent Nunez, ces faits sont liés au trafic de drogue.
Mes services vont poursuivre, sous l'autorité du procureur de la République de Bobigny, on va poursuivre les investigations judiciaires pour lutter contre le trafic de stupéfiants. On a conscience que quand on fait ça, on déstabilise le trafic, on crée des convoitises et parfois il y a des affrontements entre bandes de criminalité organisée pour récupérer des territoires, d'où un certain nombre de règlements de compte qui se traduisent par des homicides.
Dans la nuit de vendredi à samedi, un homme de 28 ans avait déjà été tué et 7 autres blessés lors d'une fusillade dans la cité des Beaudottes. Après Marseille, Sevran avait fait l'objet d'une opération antidrogue PlaceNet XXL en mars dernier afin de porter un coup d'arrêt au trafic.
Le deuxième kyste criminel français, on en a un qui dure depuis 100 ans, qui est Marseille, qui n'arrive pas à se débarrasser de cette prise d'otage inventé par Carbone et Spirito et qui a pris le contrôle de la ville. C'est le seul exemple qu'on ait. Il y a des quartiers, etc. Là, la ville en tant que telle. Et Sevran, eh bien, c'était la réplique depuis une vingtaine d'années. C'est vous pouvez reprendre l'ensemble des dépêches de règlement de compte, opérations, tentatives de racket, conflits entre bandes pour le contrôle des fours. Et vous avez Sevran et la ville qui arrivent en un de ce triste palmarès.
Triste palmarès en numéro 1 aujourd'hui, Xavier Hofer.
Une fois de plus, il faut parler topographie.
La ville de Sevran essaye de survivre comme elle le peut, mais c'est une cité qui s'appelle les Beaudottes, hors contrôle, hein, dans laquelle la police n'entre plus qu'exceptionnellement, qui est en cause. Deuxièmement, il y a l'histoire, mais il y a aussi l'actualité. On est quand même à 83 jours des Jeux Olympiques à Paris, y a des sites olympiques à côté de la cité des Beaudottes en Seine-Saint-Denis, on peut quand même être un petit peu inquiet de ce qui s'y passe. Deuxièmement, le préfet de police... Alors, d'abord, précisons, hein, je fais un diagnostic. Ce que je dis n'est pas destiné à faire plaisir ou à fâcher quiconque. Le préfet de police nous dit que c'est parce qu'ils ont fait des opérations place nette qu'il y a de l'agitation comme ça dans les quartiers. Personnellement, je pense que c'est l'inverse, que les gangs criminels connaissent l'appareil policier français bien mieux que l'appareil policier français ne les connaît. En conséquence de quoi, ils ont vu l'opération place nette, ils ont compris que c'était de la frime et donc ils s'en donnent à cœur joie à régler leur compte entre eux. Quand un ministre de l'Intérieur fait peur au milieu criminel, le milieu criminel s'arrête, se tait, se cache et attend que le ministre ait changé. C'est le fameux effet de déplacement. Là, manifestement, à Marseille, pas plus qu'à Paris, ils n'ont peur de rien.
Ils n'ont peur de rien et pourtant, ce sont souvent les mêmes phrases qui sont répétées. Et à l'envi, d'ailleurs, Denis Jacob, c'est-à-dire la peur doit changer de camp. Il faut inverser la logique de la peur. Très sincèrement, pour ceux qui nous regardent et ceux qui vivent encore plus cette situation, est-ce que ces phrases aujourd'hui ont encore un sens?
Vous savez, la peur qui doit changer de camp, ça fait 20 ans maintenant que je l'entends. Hein. Ça a commencé avec les émeutes urbaines de 2005 à Villiers-le-Bel. Monsieur Hofer a raison. Je l'ai déjà dit. L'opération Place Nette donne surtout du sens à l'action de police pour les policiers. C'est une opération de communication politique, il ne faut pas le nier, qui a des effets, mais des effets ponctuels. Et tant que ça ne sera que des effets ponctuels et non pérennes, eh bien, oui, effectivement, les trafiquants n'auront peur de rien et on sera à peine partis qui recommenceront. Mais ça, malheureusement, c'est un constat qui est partagé par un grand nombre aujourd'hui de policiers. Mais il faut le faire. Il faut le faire parce qu'il y a une population qui est en attente d'une réponse policière, même si elle n'est que ponctuelle. Elle est nécessaire. Mais je me répète, je le disais déjà tout à l'heure, derrière, il faut de la police pérenne qui agisse au quotidien, tout le temps, et pas de manière chirurgicale et ponctuelle.
Qu'est-ce que vous dites là, pas vous, mais j'allais dire les autorités, que disent-elles à ces populations qui subissent finalement le contre-coup des places nettes, c'est-à-dire que c'est normal, hein, les autorités se félicitent de ce qu'elles font, mais sur le terrain concrètement, c'est un regain, une recrudescence de violence. Il faut en passer par là, avec des risques aussi pour de dommages collatéraux, comme on dit malheureusement, c'est pas très approprié.
Reprenez, Sonia, tous les témoignages de la population qu'on a depuis le lancement des opérations places nettes. Qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent c'est bien, On en a besoin, on a besoin d'être assuré, mais si c'est pour qu'ils partent au bout de 15 jours et que tout recommence, c'est un peu également le dispositif policier que l'on met en place depuis plus de 20 ans, à savoir que dès qu'il y a un problème dans une cité, on envoie une compagnie de CRS, elle reste une semaine, 15 jours, 3 semaines, pas plus, pour faire de la sécurisation, ça s'apaise, ça se calme, et dès qu'ils sont repartis, tout recommence.
La population, on lui a menti. Puisqu'on lui a promis une opération PlaceNet XXL, qui ne dure pas sur le temps. Donc cette opération PlaceNet, elle n'est plus que XS. Et on en voit les résultats, je vous le répète, opération PlaceNet, résultat flou, je vous le redis. C'est exactement à cette population, on ment. C'est tout. Alors pendant que, évidemment, pendant que vous êtes là, eh ben, il ne se passe effectivement rien. Retour au calme, c'est une aubaine pour cette population, parce que pendant quelques jours, quelques semaines, elle est tranquille. Mais et puis après, les trafics reprennent. Donc on lui a menti, comme on ment à la population régulièrement. C'est de la com, purement de la com.
Il y a 15-20 ans, j'essaie de voir au moment où je suis arrivée en France, moi j'ai vu la dégradation à l'œil nu. C'est-à-dire, c'est incroyable. On est en Île-de-France, peu importe dans quelle région on est, mais je veux dire, pour ceux qui viennent de l'extérieur et qui voient la dégradation, c'est incroyable.
Mais
En une décennie, ce qui s'est passé avec Xavier Hofer, quand même.
Oui, mais depuis 20 ans, on entend la même chose et il n'y a pas de commissariat de police à proximité des Beaudottes. Pourquoi n'y a-t-il pas de commissariat de police à proximité des Beaudottes? Pourquoi le 8e arrondissement grouille-t-il de policiers qu'il n'y a pas de policiers à l'endroit où il serait le plus utile?
Alors c'est des territoires non pas perdus, mais qu'on a laissés.
Délaissés. Vous savez, la base de la criminologie, c'est enfantin. Les malfaiteurs ne s'arrêtent que quand on les arrête. On ne les arrête pas, ils continuent. Voilà, à 80 jours des Jeux Olympiques.
Vous savez... Pour rebondir sur ce que Sabrina Medjugorje disait tout à l'heure, les commissariats dans les quartiers, ils ont existé. Moi, je les ai connus, j'y ai travaillé. C'était les commissariats de quartier.
Bien sûr.
Mais c'était dans les années 80-90. Oui. Et il y a eu un démantèlement des services publics dans les quartiers. Mmh. Et le gouvernement de Jospin, qui a voulu tenter le retour à la proximité, puisque l'ancêtre de la police de proximité, c'était les îlotiers dont j'ai fait partie, la police de proximité, elle a été mise en place combien de temps? 2 ans. 2002, elle a été
démontée. Alors, même question,
Et la volonté de la police. Le problème de la police de proximité et l'échec qui en a suivi, c'est parce qu'il y a eu une volonté gouvernementale, non pas de mettre de la police de proximité là où on en avait besoin, mais de généraliser du bleu partout sur le territoire en déshabillant Pierre pour habiller Paul. Et là, on est un peu aujourd'hui dans la même situation.
Non, puis il faut. Alors...
Mais pardon, c'est de l'affichage, mais il y a une responsabilité. Là, c'est une forme de non-assistance à personne en danger quand ça se situe à côté de squares pour enfants ou n'importe
quoi. On a eu un désengagement politique, quelle que soit l'alternance d'ailleurs politique, depuis ces 30 dernières années.
J'entendais aussi tout à l'heure le ministre là dire qu'il était vachement content du fait qu'il y avait plus de gens expulsés. Enfin, sous M. Hollande. Les obligations de quitter le territoire français étaient exécutées à. En gros, 14%, c'est quand même pas génial d'avoir 100 personnes qui ont fait du mal en France et qu'il faut faire sortir et de n'en expulser 14. Mais en 2023, c'est tombé au-dessous de 7.
Mmh. Oui, bien sûr.
7 au lieu. Enfin, c'était peu et maintenant c'est devenu dérisoire.
Oui, mais à un mois des européennes, il est content. Vous comprenez, il faut à un mois des européennes, il faut prendre
les habitants.
Les habitants de Sevran sont peut-être ceux qui n'ont rien à faire avec les ministères des Affaires étrangères des pays d'origine d'où sont issus les délinquants.
C'est déjà ces réactions actuellement. Elles sont timées.
Les étrangers qui occupent les prisons, ça ferait déjà de la place parce qu'on nous bassine avec la surpopulation. Exactement. La surpopulation carcérale, etc. Si déjà on expulsait les étrangers, ça libérait de la place de prison. Si déjà on appliquait le principe de déchéance de nationalité pour le délinquant, ça libérait de la place de prison et la CEDH ne nous attaquerait pas parce qu'il y en a 3 dans une cellule de 9 mètres carrés.
Vous voulez dire qu'on a organisé notre impuissance?
On l'a organisé, mais parce qu'en réalité, ça est très politique. Vous disiez tout à l'heure, Monsieur Jacob, que il y a eu un démantèlement des services publics. Je ne suis pas du tout d'accord, pardonnez-moi. Nous avons arrosé les banlieues à coût de dizaines de milliards d'euros depuis 40 ans.
Sur la sécurité,
mais bien sûr, mais l'argent qu'a déployé l'État pour ces quartiers dits prioritaires de la vie, alors après maintenant on a les territoires de reconquête républicaine, chacun son petit sémantique. Il faut savoir que c'est 40 ans de politique de séparatisme, de communautarisme, et comme les ouvriers, l'employabilité des ouvriers parce que les bassins d'industrie ont disparu de ces grandes conurbations, eh bien, tout ça a laissé place à des économies parallèles et à des sociabilités parallèles qui ont détruit toute forme de structure de socialisation.
C'est une dépossession, hein.
Et comme disait M. Ruffin, absolument, comme il y a plus de policiers à Paris qu'il n'y en a en Seine-Saint-Denis, en fait, si vous voulez, ils ne comprennent pas. Et lorsque la police vient dans les quartiers, elle est attaquée comme
si
étant
je comprends bien. Il n'y a plus de policiers, il n'y a plus d'usines, ils sont remplacés par des entrepôts, c'est la désindustrialisation.
Et quand il y en a un qui meurt parce qu'il refuse d'obtempérer, tout brûle. Les écoles, les bibliothèques, les théâtres, les mairies, etc. Et c'est encore une fois le Français qui va payer la facture de 1 milliard
d'euros. Vous allez réagir, Denis Jacob, vous n'avez pas l'air d'accord. On va continuer l'analyse topographique qui est essentielle. Et tout d'abord, les titres avec vous, Mickaël.
À deux jours de l'arrivée de la flamme olympique à Marseille, la métropole hausse le ton et demande au préfet de réquisitionner les éboueurs. Depuis mardi dernier, les agents des 4e et 5e arrondissements de la ville sont en grève. En prison, un détenu sur quatre fume quotidiennement du cannabis. C'est ce que révèle une étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Il s'agit de la première enquête représentative sur ce sujet à l'échelle de la France. Et puis une opération d'évacuation a été lancée à l'est de Rafah par l'armée israélienne. Environ 100 000 personnes seraient concernées. Tzal encourage les habitants à se rendre dans les zones humanitaires. Hier soir, Benjamin Netanyahou a rappelé que rien n'empêchera Israël de se défendre.
Alors on va parler de ce qui est en cours à Rafah parce que très probablement cette opération sur Rafah qui, je le rappelle, est dénoncée par la quasi-entièreté de la communauté internationale et les États-Unis pourraient avoir des répercussions maintenant sur ce qui se passe et les blocus et les rassemblements pro-palestiniens ou plutôt anti-israéliens en France. Mais tout d'abord, je vais faire un détour et je reviendrai à ce moment par la Grande-Bretagne. Vous avez suivi ou pas, je ne sais pas, en tous les cas, les élections municipales. Et il y a eu une nouvelle donne politique, électorale. Et la question que je me pose, est-ce que c'est possible en France avec, non, malgré tout, nos garde-fous? On a un Conseil d'État, on a encore pas mal de, me semble-t-il, de barrières. Est-ce qu'on pourrait vivre cette séquence qui se passe à Leeds? Je pense que c'est au nord de l'Angleterre, Leeds, oui. Où le nouvel élu salue sa victoire. Écoutez-le de cette manière-là.
We will raise the voice of Gaza. We will raise the voice of Palestine. Allahu Akbar.
Faire, pas une révélation et pas une confidence, j'ai la double nationalité, je suis née aussi en Tunisie. Oui. Je sais qu'une grande partie du monde arabe, je ne parle pas du tout au nom de pays arabes, mais qui regarde ce qui se passe en Europe avec effarement. Oui. Ils disent, qu'est-ce que c'est que ça? Alors l'Algérie, que vous connaissez bien, je pense que c'est le cas. Et puis on avait diffusé il y a quelques jours la mise en garde du ministre des Affaires étrangères émirati, qui a dit maintenant... Les profils radicaux vont venir d'Europe.
Oui.
Vous voyez un petit peu où on en est.
Mais là, ce sont des écolos que vous avez montré.
C'est-à-dire, on marche complètement sur la tête.
Là, ils se présentent comme des écologistes, ceux que vous avez vus. Vous avez vu, c'est un peu plus de gueule que Jadot, vous avez vu, là. Et vous avez remarqué également que derrière ces images, vous n'avez pas une femme.
Ah oui.
C'est la charia.
Ce qui est intéressant,
en fait,
c'est qu'on voit,
pas dans le film.
On voit depuis le 7 octobre le Royaume-Uni montrer au grand jour ce qu'est le multiculturalisme de façon.
Là, c'est l'aboutissement.
J'allais dire en roue libre. Alors, on savait déjà qu'au Royaume-Uni, il y avait par exemple des tribunaux islamiques.
Tout à fait.
Que le communautarisme régnait à plein. Moi-même, la dernière fois que je suis allée à Londres, j'étais assez frappée puisque j'ai vu une classe d'enfants. De 10-11 ans, où la moitié des petites filles étaient voilées à 10-11 ans, et ce qui m'avait choqué, et qui serait évidemment impossible en France, en tout cas pas à l'école. On mesure, je pense, enfin, le Royaume-Uni, c'est l'immigration massive, l'islamisation et le multiculturalisme. Aux États-Unis, vous avez le multiculturalisme, l'immigration, vous n'avez pas l'islamisation massive, puisque vous n'avez pas d'immigration musulmane, en tout cas très peu. Et en France, vous avez l'immigration massive, l'islamisme, mais vous n'avez pas le multiculturalisme, en tout cas pas encore, et pas de façon institutionnelle comme il est au Royaume-Uni. Donc le Royaume-Uni conjugue finalement tous ces défis, j'allais dire, enfin ces menaces, et est devenu une sorte d'incubateur de ce qu'est un Occident qui abandonne toute velléité de commun.
Vous avez
ce livre, pieds et poings liés au communautarisme. Et on voit le résultat, fracturation.
Y compris après la victoire, il y a quelques années, du parti dénommé islamiste Ennahda, il y avait des femmes.
C'est-à-dire, mais vous imaginez l'inversion des choses et des valeurs. Il y avait des femmes et en plus, ensuite, elles se sont battues. Alors. Bon, pas celle qui était Anada, mais les autres se sont battus pour qu'il n'y ait pas une constitution avec la charia, et voilà ce qui s'est passé. Donc, expliquez-nous aujourd'hui cette inversion totale de ce qui est en train de se passer au cœur de l'Europe.
Eugénie a tout à fait raison lorsqu'elle parle de ce qu'est l'Angleterre, c'est-à-dire l'incubateur, le préfiguratif de ce qui va arriver à toutes les sociétés européennes. Suella Braverman, qui était l'ancienne ministre de l'Intérieur, l'avait dit. Rishi Sunak l'avait dit que le multiculturalisme est un échec. Rishi Sunak est allé plus loin parce qu'il a dit les islamistes ont infiltré nos institutions. Il y a des députés qui, à cause du conflit israélo-palestinien, sont menacés chez eux, et y compris même dans leur assemblée parlementaire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que l'islam tunisien, l'islam algérien, l'islam marocain n'est pas l'islam français. Au Maroc, le commandeur des croyants, il tient à son islam sunnite malékite. En Algérie, le ministère de la religion dicte le fax de ce qu'on appelle la Jumu'ah, c'est-à-dire la prière du vendredi. En Tunisie, c'était exactement la même chose. En France, vous avez un islam TikTok fanatisé où il y a des imams qui se permettent, par exemple, d'insulter le drapeau français de satanique. Après, il est repris, il est, critiqué et à juste titre en raison de ses propos absolument abominables. Et puis alors il fait un parallèle avec le drapeau LGBT et ça continue. Et ces imams, ce qu'on appelle l'islam des caves, qui a fait partie de la politique de la ville, en tout cas qui a été presque institutionnalisé par la politique de la ville, se dévoilent et en totale roue libre. C'est ça le problème. Et donc ces gens-là, ils arrivent, comme dit Eugénie, grâce à quoi ? Grâce à la convergence des luttes, grâce à l'intersectionnalité. Adam Stark, par exemple, il y a un maire qui a été élu. Grâce à la communauté LGBT, qu'a-t-il fait le premier jour de son mandat ? Il a interdit l'affichage du drapeau LGBT dans les rues de sa ville. Donc ça, c'est simplement un préfiguratif de ce qui va arriver dans les municipalités ou les collectivités locales françaises ou occidentales, si on laisse encore. Et on ne peut rien faire parce qu'ils utilisent la convergence des luttes, l'interstice des lois, etc., pour arriver au pouvoir, et ça fonctionne.
Donc le seul outil, c'est la bataille politique, idéologique et culturelle. Il n'y a pas de garde-fou institutionnel.
On ne peut pas rien faire, parce qu'en France, on est le fait est qu'on a, je pense, à peu près la même immigration et les mêmes tentatives d'islamisation, mais il y a un peu plus de résistance, parce qu'il y a quand même la laïcité, le fait qu'on ait fait la loi de 2004 sur le voile à l'école, qui sont quand même des freins. Je ne dis pas qu'effectivement il n'y a pas de problème en France, bien loin de là, mais je dis quand même qu'on n'est pas dans l'État où est le Royaume-Uni, et c'est là où on mesure peut-être aussi les bienfaits de notre modèle qui n'est pas multiculturel et qui est
républicain. Quand on se compare, là, on se console complètement.
Il y a davantage de garde-fous.
Il y a quand même des nuances. La population, ceux qu'on voit à Lille, sont des Pakistanais. Les Pakistanais, le Pakistan est un pays un peu factice, où il y a quatre morceaux qui sont cousus les uns avec les autres un peu à la va-vite en 1949, et où le seul point commun, c'est l'islam. Alors les Baloutches, alors les Pashtuns, alors les gens du Sindh, et puis les gens de Lahore, on peut se dire, ils ne parlent pas la même langue, ils ne se comprennent pas, ils se parlent en anglais entre eux, voyez-vous. Et donc la seule chose qui les unit, c'est l'islam. Donc il y a tendance à toujours un peu fanatiser les choses de manière à fournir une espèce de patriotisme de substitution. Et en France, en tout cas, la majorité de la majorité, c'est-à-dire sur les musulmans, la majorité en France, sont des Kabyles, des Berbères. Pour l'immense majorité d'entre eux, les Berbères ont le rapport à l'islam que les Français ont avec le catholicisme. On fait baptiser la petite, mais on ne va pas à la messe toutes les 5 minutes. Quoi. Voilà. Donc ça relativise aussi un peu les choses. Il y a un ferment qui est un peu différent.
On va découvrir dans quelques instants une autre séquence. Je ne vais pas vous la décrire parce que ça dépasse. Je trouve que même les mots sont assez faibles par rapport à ce qui est en cours. Et je vous parlerai de l'offensive par rapport à cela contre les frères musulmans de Gérald Darmanin. Alors, il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressée. Vraiment, besoin de votre expertise parce qu'il y a des gens qui parfois enfoncent des portes ouvertes. Mais peut-être que je me trompe. Vous nous direz ce qu'il en est. Une courte pause et on se retrouve.
Moi, j'ai eu des...
Nous allons continuer à débattre du sujet en Grande-Bretagne, du sujet véritablement, on marche sur la... C'est l'inversion totale, en réalité, de beaucoup, beaucoup de choses. Et on va voir comment en France, on organise l'offensive, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur. Mais tout d'abord, les titres avec vous, Mickaël.
Deux hommes tués hier en pleine rue, ça s'est passé à Sevran, en Seine-Saint-Denis, moins de 48 heures après la fusillade qui a fait un mort et plusieurs blessés dans un autre quartier de la ville. Gérald Darmanin veut accélérer l'expulsion des étrangers délinquants. Dans un télégramme au préfet, le ministre de l'Intérieur demande d'augmenter les cadences. En déplacement dans un centre de rétention administrative, il s'est également félicité de son bilan. Et puis au moins 6 morts et 35 blessés dans la région russe de Belgorod après une attaque de drones ukrainiens dans une zone frontalière de l'Ukraine. Il s'agit, selon le gouverneur de la région, d'une zone régulièrement visée par des frappes ukrainiennes.
Bien, et au lendemain des élections municipales en Grande-Bretagne, nous sommes allés dans la ville de Leeds. Nous allons à présent nous rendre dans la ville de Burnley. Je vous laisse découvrir la séquence. Tout ça se passe dans les municipalités anglaises.
Bah, c'est exotique.
Non, mais je trouve ça terrifiant, en fait.
Oui.
Je trouve pas ça exotique.
Bah oui, mais...
Non, mais ce que je veux, c'est derrière ça, c'est-à-dire, qu'est-ce qui nous sépare aujourd'hui d'un pays comme la Grande-Bretagne? Notre modèle universaliste est quand même attaqué, il est fragilisé. Est-ce que dans 5 ans, 10 ans, vous êtes sûr que de telles scènes, celle-ci en particulier... Bon, je trouve que celle qui est quand même plus révélatrice, c'est celle qu'on a entendue au cri de Allahu Akbar. Elle est quand même plus édifiante, si je puis dire.
Non, ce qui est intéressant, c'est que le livre de Houellebecq, Soumission, a bientôt 10 ans. Et en réalité, son scénario ne s'est pas réalisé. Parce que lui, il imaginait plutôt un scénario d'islamo-conservatisme qui arriverait au pouvoir par des voies légales. Et avec un programme plutôt conservateur, en réalité. D'ailleurs, le Premier ministre du président de la République musulmane serait François Bayrou, dans ce sens. Il n'avait peut-être pas prévu et pas anticipé que ce serait en fait la France insoumise qui se convertirait à l'islamisme et qui se ferait le héros, finalement, des voix islamistes. Puisqu'en réalité, en France, c'est Jean-Luc Mélenchon qui incarne la représentation des islamistes et d'ailleurs, et même des musulmans en général, puisque 90%, je crois, des musulmans ont voté, ou 80-90% des musulmans ont voté Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle.
Autant
69, mais 80, c'est en Seine-Saint-Denis.
Exactement.
Dans certains bureaux de Seine-Saint-Denis.
Voilà, donc 70% plutôt, donc deux tiers des musulmans ont voté Jean-Luc Mélenchon. Donc il a réussi à capter
la France insoumise. Voté pour François Hollande. Hein,
ce qu'on voit au Royaume-Uni, c'est qu'ils finalement se présentent sous leur propre étiquette. En fait, en France, c'est la France insoumise qui incarne aujourd'hui ce courant-là, jusqu'à ce qu'il se fasse peut-être dévorer de l'intérieur. Et d'ailleurs, on voit
que
la manière dont Rima Hassan, je ne dis pas qu'elle est une islamiste, elle n'est pas du tout, mais en tout cas, elle ne revendique pas de religion. Mais en tout cas, elle incarne une obsession identitaire et elle incarne le fait que son problème numéro un, c'est Gaza et pas la politique française. Rima Hassan est en train de bouffer la France insoumise de l'intérieur et éclipse absolument toutes les autres personnalités de la France insoumise. Et elle est en train de faire un hold-up véritablement sur l'appareil de la France insoumise.
Donc c'est assez intéressant. Quand vous dites la religion, est-ce qu'il y a, je vais interroger, je sors un instant de ce cadre-là, mais on va y revenir, est-ce qu'il y a un retour du religieux dans ce cas-là? Et c'est vrai pour
les musulmans. Identitaire, moi je dirais plus largement.
Et des Français juifs aussi, avec parfois une forme de comment dire?
Juste, on verra le score que fera la France insoumise aux élections européennes, mais une chose est sûre, ce score, qu'il soit élevé ou faible, sera purement identitaire. Il représentera les gens qui auront glissé un bulletin Rima Hassan ou Manon Bry dans l'urne, ils ne l'auront fait pour une seule raison, c'est Gaza. Il faut être clair.
Le gouvernement lance donc une offensive contre... Alors, on va faire attention aux termes. Entre les frères musulmans, les salafistes, fréristes... Il y a quand même une rhétorique qu'il faut expliquer, Xavier Hoffer. Regardons ce qu'a proposé le ministre de l'Intérieur, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans l'interview du journal du dimanche, dont certaines choses qui nous ont interpellés avec Arthur. Tout d'abord le sujet.
Les frères musulmans œuvrent insidieusement à peser dans la société en utilisant des méthodes bien ficelées.
Acclimater, habituer. Acculturer et petit à petit imposer l'islam, non pas par la violence, mais plutôt par la séduction. Quand une société résiste, alors on l'accuse de racisme, d'islamophobie.
Ce sont souvent les jeunes manipulables qui sont les premiers ciblés, notamment lors des activités extrascolaires.
Ils ont organisé eux-mêmes des cours d'aide scolaire, mais aussi d'apprentissage de l'arabe et du Coran. Ils ont privilégié aussi voilà, ces instruments-là et la fragilité de ces populations pour les, comme ils disent, réislamiser.
D'autres, sans avoir prêté directement allégeance au mouvement, parviennent à véhiculer la pensée unique, notamment jusque sur les bancs de l'école.
Lorsque j'ai été prof en Seine-Saint-Denis, il y avait dans chacune de mes classes quasiment un jeune homme qui faisait en quelque sorte la police des mœurs dans la classe.
Leur objectif est également de peser sur les décisions politiques en infiltrant directement les municipalités.
Il faut regarder l'organigramme et il y a quand même des signes où vous dites « Ah bah tiens, tel élu de l'équipe là, bon ». Et vous regardez, et puis oui, effectivement, c'est très clairement un frériste qui, comme par hasard, s'occupe par exemple de la jeunesse et des associations, de la vie associative de la ville.
Un rapport public sur la menace que représente cette confrérie est prévu pour l'automne.
Xavier Hofer, salafiste, frère musulman, on a besoin véritablement là d'un lexique, d'une mise au point.
Bon, rapidement, il y a 1,2 milliard de musulmans. Il y en a quelques dizaines de millions qui pensent que la société doit être régie par les lois de l'islam et non pas que les gens vivent en musulmans dans une société régie par des règles laïques. Et là-dessus, il y en a encore une minorité qui pense que la défense de cet islam rigoriste ou fanatique doit être faite les armes à la main. Les premiers sont...
Pas le djihad.
Voilà. Djihad, ça peut être le fait de faire un régime, c'est le fait de s'efforcer à quelque chose. Mais le djihad militaire, effectivement, c'est ça. Donc vous avez dans la société des gens qui pensent qu'il faut défendre la forme la plus rigoureuse de l'islam, les armes à la main, Al-Qaïda, Bin Laden, etc. Et puis d'autres, ceux-là veulent nous tuer. C'est clair, il faut désintégrer les forces infidèles. Et d'autres pensent qu'il faut endormir. J'ai eu de longues conversations avec des dirigeants des frères musulmans, et quand ils me parlaient, ils me disaient « Mais pourquoi tu es dur avec nous ?» Parce que je leur disais que c'était des menteurs extraordinaires et qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Ils disent « Regarde ». Et à l'époque, ils me disaient « Tu vois Madame Merkel ?» Alors je dis, un peu éberlué, je me demande ce que la pauvre Madame Merkel avait à voir avec ça, mais tu vois, en Allemagne, eux, c'est des démocrates chrétiens. Nous sommes des démocrates musulmans. On est pareil qu'elle. Alors bien entendu, la roue dentée, le cliquet marche dans un seul sens, et une fois qu'on est arrivé là où ils veulent arriver, le cliquet ne retourne plus en arrière. Mais effectivement, ils sont non-violents. Effectivement, leur première tentative, c'est de vous séduire, c'est de vous persuader qu'ils sont des gens convenables et tout à fait destinés à respecter la loi telle qu'elle est, mais ça n'est pas vrai. Ouais. Et dans l'histoire, tous ceux, hélas, Israéliens y compris, qui ont tenté de jouer des jeux compliqués avec eux, tous l'ont payé très cher. Le président Sadat, en Égypte, avait pensé que c'était une bonne idée de laisser entrer les frères musulmans dans les universités pour combattre à l'époque les syndicats communistes ou gauchistes. Il l'a payé de sa vie. Vous voyez, quiconque s'acoquine avec les frères musulmans le paye très cher. Ça, c'est une certitude.
Il y a aussi l'interview du ministre de l'Intérieur dans le journal du dimanche. Alors, il essaie de préciser l'objet de son combat, de son offensive. Et il fait bien attention, je dis c'est le ministre de l'Intérieur, entre islamistes et musulmans, même s'il il reconnaît qu'il faut lutter, en tous les cas, à dénoncer la perméabilité. Qu'est-ce que vous avez pensé de son entretien ?
Il y a une phrase qui m'a particulièrement agacé. C'est dès l'ouverture, il dit « Regardez à quelle vitesse nous avons adopté le mot islamophobie ». Alors en fait, non. Quoi. C'est ça. Évitez de nous mettre tous dans votre panier de collabos, parce que l'islamophobie, beaucoup l'ont refusé. Et ceux qui l'ont refusé se faisaient traiter de racistes, de xénophobes, étaient même menacés. Et je rappelle qu'il a fallu qu'un prof soit tronçonné, c'est-à-dire Samuel Paty, pour que le mot islamophobie soit critiqué. Jusqu'à la mort de Samuel Paty, on n'avait pas le droit. C'était interdit. Et alors on a critiqué et expliqué à juste titre la trajectoire surprenante, pour ne pas dire autre chose, de Jean-Luc Mélenchon, qui est passé de laïcité très radicale à des papouilles aux islamistes, mais on pourrait aussi souligner poliment la trajectoire inverse de beaucoup d'élus, de droite comme de gauche, encore une fois, qui a changé à partir de après Samuel Paty. Par exemple, le maire de Aulnay-sous-Bois, LR, Bruno Béchiza, qui a viré une de ses conseillères parce qu'elle avait dit que le burqa était un symbole d'oppression des femmes, pour faire plaisir à sa clientèle islamiste. On peut parler de Mme Pécresse, qui en 2015 explique qu'il faut lutter contre ce fléau de l'islamophobie qui monte en France. Bizarrement, toutes ces personnes-là n'ont jamais fait un mea culpa, n'ont jamais rien dit. Donc on critique à juste titre Jean-Luc Mélenchon pour son retournement de veste. Il faudrait rappeler aussi le passé de quelques élus, notamment de droite. Enfin, Je pense qu'il a juste, en effet, comme on l'avait dit, ouvert le livre de Madame Bergeau-Blaclair. Et c'est une très bonne chose.
J'espère
et
qu'il a fait plus que ça, le ministre de l'Intérieur. Reconnaissons-lui qui.
Vu l'interview, je pense pas. Mais en tout cas, ça permet peut-être de mettre des crans. Sauf que faudra pas oublier aussi tous les collabos. Parce que dire que les islamistes, les frères musulmans croient sincèrement à ce qu'ils disent, à ce qu'ils pensent et mettent en place leur stratégie pour arriver à des fins. Bon, nous, ça nous arrange pas parce qu'on sait comment on va finir. Mais on peut les comprendre. Par contre, moi, ce qui me dérange encore plus, c'est tous ceux qui sont ses alliés, alors qu'ils n'ont pas encore gagné la guerre. Ils collaborent alors qu'ils n'ont pas gagné. Et par exemple, on peut citer le président du général du CNRS qui a expliqué, Antoine Petit, qui a adressé à Mme Bergeau-Blaquer un rappel à l'ordre. On peut parler de cette conférence à la Sorbonne l'année dernière, en mai dernier, qui a été annulée. On peut parler de tous ces médias qui lui collent une étiquette de polémiste ou alors chercheuse controversée. Je pense qu'il ne faudrait pas oublier toutes ces personnes-là.
Qui est extrêmement menacée, elle aussi, hein, Florence Bergeau-Blaclair. Oui. Mais vous pensez que le ministre de l'Intérieur passe sous silence tous ceux qui sont les alliés, finalement?
Mais non, je pense qu'il vient de découvrir ce que c'est, donc il va y arriver, mais ça va être un peu de temps.
Et si vous me permettez, il y a aussi un côté un peu factice. Chacun sait ce que font les frères musulmans depuis 70 ou 80 ans. Ils passent d'un pays à l'autre en fonction de la menace. Et donc, s'il y a une menace mondialisée, c'est bien celle-là. À la minute où ils ont été chassés de Turquie, ils se sont répercutés au Soudan, et ainsi de suite. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui peut se combattre dans un seul pays. Le fait de dire qu'on les combat dans un seul pays, bah, y a un aspect un peu place nette, vous voyez, et puis ça va deux kilomètres plus loin et ça continue.
Oui, d'où les relations très importantes avec les autres pays, notamment de l'autre côté de la Méditerranée. C'est ce qui lie un peu les mains du ministre de l'Intérieur, que quand il doit renvoyer des OQTF à des pays qui n'en veulent pas, oui, doit aussi maintenir la relation de lutte antiterroriste, évidemment, avec l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Donc, complexité aussi d'une situation qu'on ne peut pas ignorer, parce qu'on dit qu'il faudrait faire ça, et puis derrière, il y a d'autres enjeux aussi. Reconnaissons-le quand même.
Oui, mais il ne faut pas non plus oublier l'influence de la Qatar Charity, hein, qui est présente dans plus de 72 pays, qui a apporté des projets dans toute l'Europe d'environ 260 millions d'euros et qui utilise encore une fois les interstices de la loi de 1901 pour créer des associations dites culturelles, mais à l'intérieur desquelles on découvre des supermarchés halal, des écoles non mixtes, des écoles coraniques, etc., etc. Et tout ça passe sous la houlette de la loi de 1901. Donc si Gérald Darmanin veut commencer par lutter contre les frères musulmans, peut-être que les associations seraient régies par la loi, sous la houlette de la loi de 1905 et pas de 1901, ouais, ce qui permettrait peut-être au Qatar de ne pas infiltrer nos institutions, à commencer par les associations dites culturelles.
Il y a aussi une autre chose. Dans l'interview du JDD, il dit qu'il est inconcevable d'interdire les frères musulmans dans la mesure où ils n'ont pas de visage, où ils n'ont pas de, ils ne sont pas encore constitués.
Comme interdire le salafisme, c'est un plaisir, mais
d'accord. Mais je réponds à cela. Pourquoi diable alors sont-ils interdits en Égypte?
Oui.
Hein, donc d'un côté,
peut-être
on nous dit,
parce que l'Égypte n'est pas une démocratie.
Peut-être, mais enfin, la première chose, ça serait de s'interroger sur cette question.
Mais d'ailleurs, c'est le débat sur le salafisme. Certains estiment que c'est un courant de pensée, fût-il radical, et qu'il peut s'exprimer.
Les frères musulmans sont pas salafistes.
Je sais bien, mais je disais, je crois que c'était Manuel Valls à l'époque qui avait dit qu'il faut interdire le salafisme, et d'autres d'ailleurs, et certains disaient que c'est pas possible d'interdire un courant de pensée, quoi qu'on pense de ce courant-là. Bon, là, ce n'était pas un courant de pensée, malheureusement. Certains l'ont vécu, beaucoup l'ont vécu dans leur chair. Je voudrais qu'on y revienne, il nous reste quelques minutes. C'est important parce que vous allez entendre le témoignage d'enfants. C'est extrêmement rare dans le cas de, pourvu que ça le reste, évidemment, dans le cas d'affaires de terrorisme. C'est le procès en appel de l'attentat de Nice qui s'est ouvert il y a 2 semaines. La cour d'assises spéciale s'apprête à entendre pour la première fois donc, des enfants de moins de 13 ans. Alors qu'en première instance, je le rappelle, le président avait estimé que leur place n'était pas dans un tribunal. Sans doute a-t-il... Enfin, on peut comprendre aussi ce qu'il dit. Oui. Mais, et c'est là ce qui est très fort, vraiment, regardez ce sujet, ce reportage qui a été préparé par Franck Trévio et Noémie Schulz. Écoutez la maturité de cette jeune fille, cette petite fille, Kenza, qui a vécu, qui a vu l'horreur. Et regardez que la maturité, le choix des mots pour décrire, elle ne le dit pas dans le reportage, elle va laisser ses mots pour, évidemment, le tribunal. Mais écoutez le choix de ses mots.
Kenza n'a que 12 ans, mais elle est extrêmement déterminée à témoigner devant la cour d'assises. Elle veut donner tort à ceux qui pensent que ces jeunes victimes âgées de 4 ou 5 ans au moment des faits ne peuvent pas en avoir de souvenirs précis ou que parler ajoutera du traumatisme au traumatisme.
Si les parents peuvent parler, pourquoi les enfants ne pourront pas parler ? Pourquoi dire qu'on ne se rappelle pas de tout, qu'on ne peut pas du coup parler, qu'on ne peut pas dire ce qu'on a vécu, dire ce qu'on a sur le cœur? Je me rappelle des cris, ce que j'ai vu ce soir-là. Maman angoissée, moi qui tremblais, maman qui saignait, qui avait mal, qui n'arrivait plus à courir, qui n'arrivait plus à parler, qui était choquée, moi j'étais choquée aussi. Je me rappelle des coups de feu aussi.
Si la fillette n'a pas été blessée physiquement, les séquelles psychologiques sont toujours très lourdes. 8 ans après les faits, Kenza a peur de beaucoup de choses.
Des camions, de la foule, quand les gens y courent, des pétards, des bruits, des feux d'artifice, camions de poubelle, quand il y a trop de monde, quand il y a des cris, quand il y a des pleurs, même les pleurs ça me fait peur.
L'audition de Kenza est prévue le 14 mai prochain. Elle sera entendue en visioconférence depuis le tribunal de Nice.
Et en attendant, d'autres enfants vont être écoutés. Et c'est vrai qu'on est, c'est quand même lourd comme témoignage. Noémie Schulz, vous êtes sur place. Et puis, je le disais, d'autres enfants vont être écoutés. Mais c'est vrai que ce reportage que vous avez réalisé, moi je l'ai écouté ce matin dans notre matinale, je me suis dit, mais quelle maturité, quelle force, quelle puissance. Et cela va donner évidemment une densité, une importance à ce procès.
Oui, et quelle détermination on a entendu lors du premier procès. Le président de la cour d'assises était opposé. Il avait posé la question au pédopsychiatre, est-ce qu'un enfant de cet âge-là, de moins de 13 ans, parce qu'on avait entendu des mineurs, hein, mais plutôt des adolescents de 15, 16, 17 ans qui étaient venus raconter. Il avait demandé, est-ce qu'un enfant de 11, 12, 13 ans peut venir témoigner. Il était arrivé à la conclusion qu'il préférait recueillir les témoignages des pédopsychiatres et des parents des très jeunes victimes, mais certains enfants ont insisté. C'est le cas de Kenza, c'est le cas aussi de Landy et Téliane qu'on va entendre dans les toutes prochaines minutes ici à la cour d'assises spéciale de Paris. Alors pareil, ils sont entendus par visioconférence, ils sont à Nice. Aujourd'hui, ils ont 12 et 13 ans, ce frère et cette sœur, avec 4 et 5 ans au moment des faits. Toute leur famille a été fauchée par le camion sur la promenade des Anglais le 14 juillet. Leur petit frère de 20 mois était dans sa poussette. Il a été projeté, miraculeusement rattrapé par une passante. Ses parents vont mettre plusieurs heures à retrouver sa trace. Landy, elle avait été grièvement blessée à la jambe. Son frère a eu la mâchoire fracturée. Leur père aussi avait eu une fracture crânienne. Et ces jeunes adolescents qui rentrent dans l'adolescence, eh bien, ils ont dit à leur avocate qu'ils voulaient parler. Ils ont préparé cette audition. Ils ont écrit un petit texte. Et c'est eux qu'on va entendre dans quelques minutes.
Basculer la décision de la cour d'assises, vous l'avez rappelé, hein, le président avait estimé au départ que leur place n'était pas dans un tribunal. Est-ce que ce sont les enfants eux-mêmes, leur insistance, leur volonté de témoigner qui a fait basculer les choses ?
Oui, vous savez, c'est vraiment une décision, ça relève du pouvoir discrétionnaire du président. Donc le président Laurent Ravioux, il y a un an et demi, avait estimé qu'il n'avait pas besoin de ces témoignages-là, qu'il y avait suffisamment de personnes qui pouvaient raconter ce qui s'était passé le soir sur la promenade des Anglais. Et puis là, un an et demi a passé, donc ces enfants sont un peu plus grands, puisqu'on l'a vu, ils sortent de l'enfance, ils rentrent dans l'adolescence, ils ont 12, 13 ans. Sans doute le président a-t-il estimé, c'est un autre président, ça n'est pas le même, sans doute a-t-il estimé que bien il était possible de leur donner la parole. Bien sûr, il n'y a aucune obligation, c'est uniquement les enfants qui en ont fait la demande. Au tout dernier moment, un enfant peut toujours renoncer, c'est-à-dire décider de ne pas parler. Ils sont accompagnés bien sûr de leurs proches, de leurs avocats depuis le palais de justice de Nice aussi, pour rendre les choses sans doute un peu moins solennelles, difficiles. Ce sera peut-être plus facile pour eux de ne pas être dans cette grande salle très impressionnante ici à Paris.
Merci beaucoup, Noémie Schulz, notre spécialiste pour les justices en direct en duplex depuis la cour d'assises spéciale de Paris. Noémie qui nous a brossé, j'allais dire, le décor de cette cour d'assises. Et c'est vrai que c'est un vrai débat. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord en disant d'abord, est-ce que ce sont vraiment les mots des enfants? Peuvent-ils traduire l'horreur en mots à cet âge-là?
Moi, j'avoue que je suis assez mal à l'aise. Je respecte évidemment le témoignage de cet enfant, mais je suis assez gênée par l'exposition médiatique des mineurs en général. Et je pense que les parents doivent avant tout les protéger des caméras et ne pas les mettre en avant et ne pas protéger leurs paroles. Et souvent d'ailleurs, certains enfants cherchent aussi à être à la visibilité médiatique et c'est un âge où
c'est
on aime bien.
Tout à fait normal etc. pour les enfants. Oui.
Voilà, et je pense qu'il faut les protéger et je pense que ça traduit aussi une évolution où on n'a pas à juger ou pas de la société, mais qui est que le tribunal n'est plus vraiment le lieu de la recherche de la vérité, mais un lieu, un exutoire aussi psychologique pour les victimes et pour la société. On l'a vu pendant le 13 novembre, où le procès du 13 novembre avait eu quelque chose de quasiment religieux. C'est d'ailleurs Emmanuel Carrère qui en parle très très bien dans son livre V13. Il dit finalement que c'était un peu comme une cérémonie, en fait, une manière collective de nous replonger. Vous avez dit le mot exorcisme. Ouais. Quelque part, quelque chose, comme nous n'avons plus d'ailleurs de religion collective commune. Il disait d'ailleurs que l'espèce de salle qu'on avait construite pour le procès ressemblait à une église, qu'il y avait des travées, etc. Et c'était plus vraiment l'objet, c'était pas vraiment de juger les terroristes, ni même ce qui s'était passé.
Et qui ne sont même pas dans la salle.
C'était de témoigner et pour les victimes de réparer finalement ce qui s'était passé en s'exprimant. Et voilà, on voit de plus en plus que les procès sur le terrorisme sont devenus une manière de soigner les victimes plus que de juger les coupables. C'est une évolution sociétale. Je ne sais pas s'il faut le déplorer ou bien le saluer.
Attention à quelque chose.
Attention aux enfants.
Non, mais attention à quelque chose. Les États-Unis, à la fin des années 80, début des années 90, ont traversé une période de dinguerie absolue où on avait pensé pouvoir reconstituer la mémoire des enfants, faire revenir la mémoire de phénomènes qu'ils avaient oubliés et où des gamins de 5 ans disaient qu'ils avaient assisté à des messes noires et où ils avaient été violés par des diables dans leur instituteur, les parents exigeant qu'on creuse sous l'école pour savoir s'il n'y avait pas un tunnel qui menait en enfer. Et on a vu à l'époque des citoyens américains condamnés à des 10-20 ans de prison pour des sottises pareilles. Oui. Et naturellement, 10 ans après, ils avaient tout oublié.
Alors là, le mouvement de balancier était parti complètement de l'autre côté. Voilà, là, nous sommes dans un cadre tout à fait différent. Mais c'est vrai que la question interroge. Néanmoins, j'ai insisté parce que même s'il y a un débat, je pense que la petite qui s'est exprimée avec ses mots et ce qu'elle semble vouloir raconter est important, évidemment, à ses yeux et aux yeux de sa mère.
Oui, le problème, effectivement, c'est que lorsqu'on l'écoute, on est en droit de se demander ce que ça apporte. Je parle du tribunal. Je trouve que ça, c'est tout à fait poignant. Évidemment que l'on est touché par ce qu'elle dit, mais qu'est-ce que ça apporte véritablement au tribunal? Je reste circonspect.
En tous les cas, on va suivre ces journées et ces prises de parole, évidemment, à huis clos. Et c'est Noémie Schulz qui nous en parlera. On va continuer, et avant de clore cette émission, les titres avec vous, cher Mickaël.
Réunion d'urgence au Qatar face à l'impasse des négociations pour une trêve à Gaza. Les médiateurs internationaux tentent d'arracher un accord, mais se heurtent à l'inflexibilité des deux camps. La parole est aux enfants dans le procès en appel de l'attentat de Nice. En première instance, le président avait estimé que leur place n'était pas dans un tribunal, mais certains ont insisté pour être auditionnés. Deux enfants sont donc entendus aujourd'hui en visioconférence. Et puis après les étudiants, c'est au tour des lycéens de se mobiliser contre Israël. L'union syndicale lycéenne a appelé au blocage des lycées partout en France aujourd'hui et demain. Et vous le voyez sur ces images, c'est notamment le cas depuis ce matin au lycée Gusteau de Nantes.
Merci Mickaël, et on verra si ces mobilisations ou rassemblements vont aller crescendo à mesure que l'intervention à Rafah va s'intensifier, puisque c'est aussi l'information de la matinée avec cette image en direct et cette intervention de l'armée israélienne à Rafah. Cela provoque beaucoup de réactions politiques, notamment la France insoumise. Il y a quelques instants, Jean-Luc Mélenchon a dit ceci: l'armée génocidaire, dit-il, entre en action à Rafah. Chaque assassinat qu'elle va commettre est à charge morale de ceux qui les commettront et de tous ceux qui ont armé, laissé faire et tenté d'interdire. Pensée horrifiée pour les malheureux soumis à cette abomination. Donc, le débat va repartir, si je puis dire, de plus belle. Si Gaza était au centre et a percuté la campagne des Européennes, Rafah va le faire également. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Je vous remercie en tous les cas. Merci d'avoir été nos invités Midi News. Je vous dis à très bientôt et à demain, déjà à midi bien sûr.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.